Bonsoir. Donc, nous allons aujourd'hui avoir le troisième volet, si j'ose dire, de notre trilogie de conférences sur le monde des passions. Nous terminons avec celle qui est la première chronologiquement dans l'ordre des pièces au programme, c'est-à-dire Andromaque. Patrick Dandré va donc développer une interprétation du monde des passions selon Racine. Alors, je rappelle un certain nombre de choses. Vous pouvez partir quand vous voulez. La conférence durera 2 heures, un peu moins, un peu plus. Après, vous pourrez poser des questions. Si vous partez pendant la conférence, vous partez sur la pointe des pieds, sans faire du bruit, sans dire que c'est absolument idiot, ou des choses de ce genre. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais certains peuvent avoir un coup du sommeil, ou avoir envie de rentrer chez eux, ou un coup de téléphone à passer, enfin bref. Toute raison qui vous... Alors vous sortez doucement, sans faire de bruit, et tout ira très bien. En revanche, pour les questions, donc, après la conférence, je vous invite à poser des questions, pas forcément uniquement sur ce que dira Patrick Dandré. Si vous avez d'autres questions à poser, je pense qu'il essaiera d'y répondre. En revanche, attendez d'avoir le micro pour poser votre question. Parce que, comme nous sommes filmés, enregistrés, nous espérons pouvoir diffuser la conférence sur Canal U le plus rapidement possible. Ça ne dépend pas entièrement de notre volonté. Il est préférable que les questions soient entendues aussi par ceux qui nous verront dans un avenir indéterminé sur la toile et dans un avenir proche pour ceux qui préparent le cours. Voilà. J'annonce donc que la semaine prochaine, nous aurons une conférence d'un tout autre genre, puisqu'il s'agira de la philosophie de la nature chez Hegel, à destination et des spécialistes de philosophie et des élèves qui préparent le concours dans les filières économiques. Et nous aurons une autre conférence donc le 9 février. Vous êtes tous bien sûr invités à venir en fonction de vos disponibilités, y compris les élèves, plus ou moins. Ancien récent de M. Dandré. Voilà, je vous passe la parole. Il faut peut-être appuyer sur le bouton, c'est parfait.
Merci bien. Bon, nous allons commencer tout de suite parce que je suppose que si, pour beaucoup d'entre vous, vous préparez un concours, vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de perdre du temps. Donc, je vais parler d'Andromaque et pour parler d'Andromaque, je vais partir du début. J'aime bien commencer par les commencements et je m'interroge, je pose la question, quel est le premier mot de la littérature ? Je repars de loin. Vous allez me dire la littérature chinoise ou indienne, on la connaît peu. Bon, limitons-nous, quel est le premier mot de la littérature occidentale? C'est le premier mot, évidemment, de la première œuvre littéraire. Quelle est la première œuvre littéraire en Occident? C'est l'Iliade, hein, c'est la première œuvre qui est considérée comme faisant partie de la mythologie et étant, je dirais, autre chose que de la religion ou de... enfin, des choses... d'ordre sacré. Et ce premier mot, c'est un mot passionnel, qui désigne une passion. Le premier vers de l'Iliade, c'est, je vous le montre ici, Menin haide thea peleiadeo alkileos ulumenen, et etc. La colère. La colère chante la muse, la colère d'Achille, cette colère ruineuse qui, etc. Le premier mot, donc, de notre tradition littéraire désigne une passion. Cette passion est une colère. Et cette colère est le sujet d'une épopée de 27 000 vers. C'était sans doute une grosse colère. Et cette colère a donc été l'objet d'une épopée tout entière. En effet, l'Iliade ne chante pas des combats, on a tort de le croire, encore moins la prise de Troie, ni même la guerre de Troie, non. L'Iliade chante une colère épisodique, un épisode de colère, qui fut cause d'un anéantissement, d'une destruction, non pas tellement pour les Troyens, mais pour les Grecs, ceux qu'on appelle alors les Achéens, qui étaient venus faire le siège de la ville de Troie, les Achéens dont Achille fait partie. Une guerre fratricide, donc, une guerre civile, au sein de la guerre entre les nations achéennes et troyennes, une guerre fratricide qui est la cause d'un crépuscule des héros, comme le dit le texte. Vous m'entendez convenablement pour le son, ça vous va? D'accord. Donc, chante aux muses la colère d'Achille, fils de Pélée, colère funeste qui causa tant de malheurs aux Grecs, qui précipita dans les enfers les âmes courageuses de tant de héros, et rendit leur corps la proie des chiens et des vautours. Bref, l'épopée débute par le récit d'une peste, ce sont les premiers vers, dont Apollon a frappé le camp des Grecs parce que Agamemnon, le chef de la coalition, a refusé de rendre à un prêtre d'Apollon, qui s'appelle Crisée, la jeune fille, sa fille, qu'il a enlevée. Agamemnon l'a enlevée, il l'a trouvée à son goût, et quand le père est arrivé avec une rançon, le roi des rois, Agamemnon, a refusé de la rendre. Ça ne se fait pas. Quand on vient avec une rançon, normalement, on rend l'otage. Il a voulu la garder, et Apollon, pour venger son prêtre, a jeté la peste sur l'armée des Grecs. Alors, les chefs se réunissent, et Achille prend la parole et dit à Agamemnon, bon, ça commence à bien faire, tu la rends, pour que nous puissions sortir de la peste. Évidemment, Agamemnon y consent, mais il se venge et il dit à Achille, ben, je prends la tienne. En effet, Achille avait aussi une captive. Vous voyez, c'est une histoire de captives et de rois qui ont des captives. Ça vous rappelle peut-être quelque chose si vous avez un peu Andromaque en tête. La captive d'Achille s'appelait Briseis et il la traitait en épouse. Et donc, on le prive de cette femme avec laquelle il a un lien affectif, une forme de passion amoureuse. Alors évidemment, il est furieux. Il est frustré, il met la main à l'épée, et à ce moment-là, lui apparaît Athéna, qui est la déesse de la sagesse, et qui lui dit de se calmer un peu et de réfréner sa colère. Il se contente donc de traiter Agamemnon de sac à vin, œil de chien et cœur de cerf. Dans les coalitions, il y a toujours ainsi des gens un petit peu brutaux. Il y a un côté un peu Poutine chez Achille, vous voyez. C'était comme ça. Donc, pas facile de faire une coalition avec lui. Et il abandonne, il annonce qu'il abandonne la coalition et qu'il se retire sous sa tente pour bouder. Enfin, c'est moi qui le dis, mais lui, il ne le dit pas. On sait que la guerre de Troie avait pour objet de ramener à Sparte Hélène, l'épouse de Ménélas, c'est-à-dire le frère d'Agamemnon, qui avait été enlevé par Paris, un des fils de Priam. C'est pour ça que les rois grecs se réunissent pour aller rattraper cette femme, cette captive donc de Paris, et mettre le siège autour de Troie. Mais ce n'est pas ça que va raconter l'Iliade. L'Iliade part d'un autre rapt, celui de deux captives, sans autre rôle dans l'épopée, l'une qui s'appelle Criséis et l'autre Briseis. Et le sujet, c'est un sujet donc de caractère passionnel, anecdotique presque, par rapport au champ beaucoup plus vaste des 10 ans que dura la guerre des Achéens contre Ilion, contre Troie. Ilion, c'est l'autre nom de Troie, c'est pour ça qu'on appelle l'épopée l'Iliade. L'épopée se contentera donc de chanter la colère d'Achille. L'épopée se contente de chanter la colère d'Achille, sa ménisse. Alors, comment se présente cette colère? C'est la première passion de notre histoire. Ça nous intéresse de savoir comment elle se présente. D'un côté, c'est un pic volcanique. C'est, si vous voulez, une passion agressive, une crise de fureur, un moment d'affrontement entre deux rois qui sont prêts à en venir aux mains. Puis d'un autre côté, quand Achille part sous sa tente, et puis il va y rester, des semaines durant, c'est le ressentiment lancinant. Si vous voulez, c'est la coulée de lave refroidie après la colère, c'est-à-dire la bouderie d'Achille sous sa tente. Bref, c'est une passion à double face, tantôt corrodante, tantôt virulente. Virulente au début et corrodante, lente, lancinante dans la suite, que le second vers de l'épopée, vous vous rappelez, qualifie de houloménen, ruineuse. Houloménen, pour la beauté de la chose, je vous le dis, c'est la forme poétique avec allongement métrique du participe présent de l'aoriste 2 de la voix moyenne du verbe lumi. Ça, c'est pour vous expliquer que la connaissance du grec, c'est quand même quelque chose, et que l'algèbre de Riemann à côté, c'est la bouillie pour les chats. Bien, il faut bien que les littéraires se défendent, vous comprenez, devant un public de scientifiques. Donc, lumi veut dire détruire, anéantir. C'est vraiment la grosse destruction, vous voyez. Et la colère, elle est destructrice. L'Iliade raconte donc une passion destructrice, une passion ruineuse, une passion anéantissante, qui alterne des crises aiguës avec des périodes de latence boudeuse et fulminante. Car la passion qui anime Achille va répercuter son effet sur son plus fidèle compagnon, son alter ego qui s'appelle Patrocle. Patrocle est un peu saisi de terreur et de pitié, à nouveau des passions, lorsque, évidemment, les Troyens commencent à gagner la guerre, parce que quand Achille n'est plus là, le camp grec est quand même très abaissé. Et par conséquent, Les Troyens et Hector sont parvenus à entrer dans le camp des Achéens et menacent d'embraser les vaisseaux. Patrocle fait alors une crise de larmes et de sanglots, dit l'épopée. Vous voyez que c'est une épopée extrêmement affective, et il demande à Achille le droit, ou à Achille de sortir, ou le droit au moins d'aller secourir les autres Grecs. Achille répond d'abord par une colère. C'est un peu son leitmotiv. Homer dit, il s'irrite violemment. Et puis, quand l'incendie approche des 50 nefs qui ont amené à Troie l'armée des Myrmidons, l'armée d'Achille, évidemment, Achille est un peu inquiet. Alors il consent à une chose étrange. Il prête ses armes à Patrocle, et comme l'arme est fermée, qu'on ne voit pas le visage, que le visage est protégé par une visière, lorsque Patrocle sort, les autres Grecs croient que Achille entre dans le combat. Il y a donc une sorte de confusion, et Hector se précipite, c'est le héros des Troyens, pour affronter Achille, héros des Grecs. Il croit que c'est Achille, en fait c'est Patrocle, et aidé par Apollon, il va finir par tuer Patrocle, Patrocle qui est l'intime et le cousin d'Achille. Et la colère d'Achille à l'annonce de cette mort, mêlée à une intense douleur, un nuage noir de douleur, dit Homère, accompagné d'une plainte terrible, fait même craindre que Achille ne se tranche lui-même la gorge. Vous avez remarqué que l'Iliade, c'est assez paroxystique du point de vue passionnel. Donc après la fureur jalouse et la douleur amoureuse d'avoir perdu celle qu'il considérait comme sa femme, que lui a ravi Agamemnon, voici que Achille perd son meilleur compagnon, que lui ravit Hector. Tué sous les armes, et donc sous l'identité d'Achille, Patrocle est ainsi doublement le double du héros, un double de corps et un double de cœur. Le deuil d'Achille va alors être un deuil d'ami frustré, en même temps qu'un deuil de soi, l'effet d'une mort par, je sais pas, par effigie, pourrait-on dire, par contumace, enfin, une mort par répercussion. Achille va se faire forger de nouvelles armes, évidemment par le dieu des forgerons, Héphaïstos, excusez du peu, et c'est donc un Achille bouillant de vengeance qui part affronter Hector. C'est un rebondissement, si vous voulez, et que fait Hector? À l'arrivée du véritable Achille, il s'enfuit, saisi par une peur panique, nouvelle passion. Pourquoi? Parce que la colère d'Achille est tellement volcanique qu'elle suscite la terreur. Sa fureur fait peur à un esprit raisonnable et humain comme celui d'Hector qui combat sans faiblesse mais sans passion. C'est que le héros colérique est capable du pire. Il va notamment exercer terriblement sa vengeance sur le cadavre d'Hector lorsqu'il s'est parvenu à le rattraper et à le tuer. Que fait-il? Il le traîne autour des remparts d'Ilion, il traîne son cadavre lié par les pieds à l'arrière de son char. Vous savez que ça s'est produit horriblement récemment au Moyen-Orient dans le cadre de Daesh, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'était déjà, c'est un geste très très ancien, vous voyez, c'est déjà dans l'Iliade, qui a été écrit vraisemblablement au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Achille, toujours furieux, en proie toujours à cette colère continue, qui n'est plus la colère pour Briseis perdu, mais la colère pour Patrocle tué, Achille prive le cadavre de sépulture en condamnant ainsi son âme à une errance éternelle. Priam, le père d'Hector, viendra de Troie, ouvrira les portes et viendra réclamer le cadavre de son fils, et il l'obtiendra en attendrissant Achille, dont il excitera la compassion, ce sera la dernière passion de l'épopée, par le souvenir nostalgique du père d'Achille, le vieux Pélée, qu'Achille a laissé en Thessalie pour aller gavoyer en Asie mineure. Bref, si je résume bien, colère, ressentiment, vindicte, amour, haine, passion, peur et pitié, l'Iliade, et donc la légende troyenne, et là je m'approche d'Andromaque, offre un répertoire des passions humaines dans leur diversité, passions qui sont concentrées en arborescence autour de la ménis d'Achille, de sa colère première, ce qui constitue une sorte de premier modèle d'une grille, si vous voulez, d'une syntaxe, ce que j'appelle une syntaxe intemporelle de la passion, telle qu'elle sera pensée pendant plus de 2 millénaires ensuite. Il faut repartir de ce texte premier parce que c'est lui qui nous donne en somme la clé de ce répertoire des passions qu'ensuite les philosophes vont théoriser puis que les poètes vont reprendre en connaissance de cause. Par-dessus quoi? Par-dessus cet inventaire, l'épopée dégage de manière implicite la leçon morale. Cette leçon morale, elle est dégagée, vous le voyez bien, symboliquement, c'est que l'homme en proie à un égarement passionnel travaille de l'intérieur de lui-même à son propre anéantissement. C'est que la passion vous fait courir à la destruction de soi-même. Un homme passionnel retourne sur lui-même ses armes. Dès l'ouverture du poème, d'ailleurs, il nous était dit que le récit serait celui de l'autodestruction des Achéens. C'est très étrange. Vous avez là une épopée qui raconte une guerre entre deux peuples et qui choisit un épisode où c'est un des deux peuples qui s'autodétruit de l'intérieur de lui-même. Vous imaginez ce qu'un poète tragique peut faire avec ça ? Merveilleux, évidemment. C'est plus du tout de l'épopée, c'est déjà de la tragédie. La différence entre l'épopée et la tragédie, c'est la différence entre la guerre extérieure et la guerre civile. Sauf que la guerre civile est dans le cœur des gens. Donc, dès l'ouverture, nous avions cette formule, je la lis, « Chante aux muses la colère d'Achille, fils de Pélée, colère funeste, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, qui causa tant de malheur aux Grecs, qui précipita dans les enfers les âmes courageuses de tant de héros et rendit leur corps la proie des chiens et des vautours. Ainsi s'accomplit la volonté de Zeus, du jour où se divisèrent, après une vive dispute, Agamemnon, roi des hommes, et le divin Achille. La passion, mue par Zeus, et Zeus, vous savez, au génitif, ça donne Dios, c'est-à-dire Dieu. La passion mue par Dieu anéantit l'homme en le déchirant d'abord au sein de lui-même et en le vouant ensuite à être déchiré par les chiens et les vautours, comme le dit le texte. Ce qui veut dire que la passion est une bête en l'homme qui le condamne à être la proie des bêtes. Elle force l'accomplissement du destin mortel de l'homme, et c'est par là que les dieux le conduisent à se détruire en détruisant ses semblables. C'est la malignité des dieux, la passion. Le combat militaire des Achéens et des Troyens cachait le combat fratricide des Achéens entre eux. Incarné par la colère d'Achille, lui-même détruit dans le couple qu'il forme avec Patrocle, par l'effet de cette passion agressive, dont la solution de soulagement consistera à tuer Hector, c'est-à-dire pour Achille, à s'affronter lui-même. Car si vous avez bien réfléchi, comme Hector a volé à Patrocle les armes qu'Achille lui avait prêtées, lors du combat qui est le cœur de l'épopée entre Achille et Hector, Achille combat contre un guerrier qui est lui-même, c'est-à-dire qui porte les mêmes armes, enfin ses anciennes armes, bien sûr, Achille en a des nouvelles, mais c'est quand même contre son armure qu'il est en train de combattre. Comment mieux dire symboliquement qu'il est en train de combattre avec lui-même, contre lui-même, en proie à sa passion qui le divise et qui le détruit. La pitié qui va résoudre l'épopée, la pitié que saura susciter le roi Priam, la pitié qui est un dédoublement altruiste, je me mets à la place de l'autre, un dédoublement pacificateur. Je me calme parce que j'ai pitié de la douleur de l'autre. Je calme ma colère à cause de ça. Cette pitié résout la colère qui, elle, est un dédoublement égoïste et destructeur. Vous savez, entre colère et pitié, le dédoublement inverse. D'un côté, le dédoublement altruiste et pacificateur. Du côté de la colère, en revanche, le dédoublement égoïste et destructeur. Et l'œuvre se terminera par des jeux funèbres. Représentation fictive et distancée de la guerre, puisque dans les jeux funèbres, c'est sportif. On combat, mais pour le jeu, pour le mort, en hommage aux morts. Jeux funèbres, en effet, qui accompagnent les funérailles de Patrocle, dont les os sont placés dans l'urne où ceux d'Achille le rejoindront bientôt. Mais ça, l'Iliade ne le racontera pas. Signe d'apaisement par la paix du tombeau. Bref, et si j'ai commencé par là, et excusez-moi de vous avoir un peu détourné d'Andromaque, mais voyez combien c'était important, puisqu'on sait qu'Andromaque, ça sort de la légende troyenne. Bref, on peut dire que tous les éléments sont en place, à partir du premier texte de notre civilisation, pour une tragédie des passions humaines, incarnée dans des êtres en proie à des déchirements intimes, et résolue dans l'apaisement d'un deuil universel, comme celui qui termine l'Iliade, c'est ce que j'appelle le moment d'Andromaque. En effet, on sait que le sujet d'Andromaque procède de la légende troyenne, d'abord par l'origine de ses personnages. Andromaque est veuve d'Hector, lequel est mort des suites du conflit entre Agamemnon et Achille. respectivement père d'Oreste et de Pyrrhus, dans le cadre de la guerre causée par le rapt d'Hélène, qui est la mère d'Hermione. On est donc dans une projection du répertoire de l'Iliade. Mais plus profondément, ce sujet procède aussi du thème autour duquel s'organisait l'Iliade, c'est-à-dire un affrontement de passions exacerbées par les dieux et par le destin, autour de la possession d'une captive que l'on s'arrache, une captive dont la destinée, subie et passive, puisqu'elle est esclave, entraîne les autres personnages dans cette forme étrange de passivité agissante qu'est la passion. L'homme en proie à ses passions est en effet passif, le terme le dit, mais il est passif hyperactif, c'est-à-dire que la passion, c'est de la passivité agissante. Achille, de ce point de vue, est agi, nous dirions agité, mais c'est la même chose, par ses passions, c'est-à-dire objet passif de l'effet produit par le rapt de Briseis qu'on lui a enlevé, ou par la mort de Patrocle qui, dans une certaine mesure, lui est également ravi. La frustration, qui est une forme de passivité, suscite donc en Achille une réaction passionnelle qui devient le sujet du récit. C'est ça l'Iliade. La colère d'Achille est le sujet de l'Iliade, pas Achille lui-même. Vous notez que dans la formule « la colère d'Achille », par quoi ça commence ? Chante, muse, la colère d'Achille. Achille n'est que complément du nom. Et c'est la colère le sujet. Achille est ravalé en objet au cœur de l'action dont il se croit l'acteur. Acteur, il l'est, mais au sens théâtral. Il est acteur comme on l'est au théâtre, c'est-à-dire qu'on interprète un rôle, et ce rôle, ce sont les dieux qui l'ont écrit, c'est un rôle de colérique, et Achille n'en est que le comédien. Il ne le sait pas, mais ce n'est pas lui qui agit. Il se glisse dans un rôle, dans un personnage que sa passion écrit pour lui. Et il en change de passion et de rôle. En fonction de la cause de sa colère, Achille passe du refus de combattre à la fureur de combattre, ce qui est aberrant. Pendant 3 semaines, il ne veut pas combattre, et puis quand Patrocle est mort, il veut combattre. Comme Pyrrhus dans Andromaque, tantôt suppliera, accordera tout, et tantôt fulmine, menace, malmène sa captive. Or, Pyrrhus est fils d'Achille. Et si Pyrrhus est fils d'Achille par l'histoire légendaire, je dirais que Andromaque, elle, est fille de Briseis par sa posture. Vous vous rappelez la captive qu'on a enlevée à Achille? Elle est captive, effectivement, Andromaque, et normalement, elle devrait avoir aussi peu d'importance et de rôle que Briseis, qui n'apparaît jamais dans l'épopée. Et pourtant, la tragédie s'appelle Andromaque. Pourquoi ? Parce qu'elle est veuve d'Hector en même temps et mère de leur fils Astyanax. Et à partir de là, le destin de Briseis et celui d'Andromaque divergent. Si Andromaque n'avait été que veuve, elle aurait été réduite au rang de fille, l'obéissance filiale en moins, et contrainte à la passivité. Mais elle est veuve et mère. Et par là, elle est contrainte à l'action pour servir de père à son fils orphelin. Fille donc de son devoir, passive, mais d'une passivité contraire à celle de son statut de captive, promise à un vainqueur, à des vainqueurs même qui se la disputent. En somme, et c'est le paradoxe d'Andromaque, je pense que vous l'avez déjà étudié, vous le connaissez, et c'est la force de ce personnage, évidemment, puis c'est l'intérêt aussi, c'est sa soumission à son devoir de veuve et de mère qui la condamne à l'action. Elle agit parce qu'elle est soumise, et soumise à une situation, mais son action est sans passion, je veux dire sans égarement passionnel. C'est-à-dire qu'elle agit en fonction d'une situation qui est extérieure à elle, mais qui n'est pas intérieure à elle. Elle n'agit pas parce qu'elle est mue par une passion intime, elle agit parce que les passions des autres la mettent dans une situation telle qu'il lui faut agir. Et le paradoxe qui fait le ressort de l'intrigue d'Andromaque, et qui est, je dirais, du point de vue des intrigues raciniennes, une intrigue particulièrement intéressante. Chaque tragédie a ses qualités, mais celle-là, elle a un intérêt qui est cette construction bizarre, assez contrastée. L'intrigue, le ressort de l'intrigue est là, alors que dans l'épopée, les trois objets qui suscitent les passions, qui font agir les héros, sont inactifs. C'est une vierge et deux cadavres. Bon, ça, c'est pas très agissant. Dans la tragédie, Andromaque, qui est l'enjeu, qui est veuve et mère, qui est objet des passions affrontées et combinées de ses tourmenteurs, Andromaque est condamnée par son statut de captive à une action qu'elle subit comme une contrainte extérieure, certes, mais pas comme une contrainte intériorisée. Et c'est ce qui va faire sa force. Pyrrhus, Hermione, Oreste agissent sous la contrainte de leur caractère, de leur passion, de leur désir. Ils se croient donc libres et sont en réalité esclaves, captifs, puisque joués de leur passion. Andromaque, elle, agit sous leur contrainte matérielle et morale, elle est esclave, mais elle en sort libre, à la faveur d'une action méditée et dominée, dont elle est le sujet et non pas l'objet. Alors vous voyez l'interversion. Ceux qui se croient libres et qui le sont par statut social sont en fait des esclaves, et celle qui est la captive et l'esclave tire de cet esclavage et de son détachement une puissance de liberté. Elle devient sujet, et non pas seulement objet, sujet au sens philosophique au sol. Comme elle est mue ni par la colère ni par l'esprit de vengeance, elle s'engage dans l'action pour sauver son fils avec un esprit dégagé. Tout au long du jeu sur ces deux mots, si vous voulez, que je mettrai le statut d'Andromaque, c'est une femme engagée à l'esprit dégagé. Dégagée du poids des passions aveuglantes. Son devoir envers son fils, le souvenir de son mari, lui interdisent de faire tomber sa tristesse dans la passion de désespoir qui l'empêcherait de réfléchir et d'agir. Elle peut être déchirée, mais elle n'est pas dans cette inhibition de l'action que constituerait une angoisse, cette forme de passion extrême, un désespoir qui fait qu'elle baisserait les bras. Donc, elle est la proie et l'incarnation de diverses passions au sens descriptif du terme. Je peux dire qu'Andromaque est mue par la passion de tristesse, de crainte, de désespoir, au sens descriptif du mot passion. Mais elle n'est pas la proie d'un égarement passionnel au sens normatif du terme. Et là, je définirai la passion comme le contraire, ou plutôt la perversion de la raison et de l'action. La passion devient égarement, et elle désigne des sentiments, des émotions, d'un point de vue normatif. Lorsque la passion est une perversion de la raison, vous vous croyez lucide et en fait vous êtes complètement aveugle, et une perversion de l'action, vous croyez agir et en fait vous êtes passif, vous êtes agi par votre passion. Ça, c'est la passion au sens normatif. Andromaque, elle, éprouve des passions, c'est normal, mais au sens seulement descriptif. Il n'y a aucune erreur de jugement, aucune errance. Là, il faut que j'appuie, hein, je crois. Oui, il ne faut pas que j'oublie d'appuyer. Voilà, c'est bon ? Ouais. Il est ma conscience, voyez. Donc, aucune erreur dans son jugement, aucune errance dans sa conduite, signe qu'aucun égarement passionnel ne surgit de ses passions, si intense soit-elle. Et je dirais donc que l'enjeu moral de la tragédie, il est intéressant pour ceux d'entre vous qui travaillaient sur Andromaque à propos des passions, je suppose que vous êtes la majorité ici, l'enjeu moral, c'est que s'opère implicitement dans la tragédie la distinction entre, d'une part, l'usage normal des passions en tant qu'émotion et affection naturelle, inhérentes à la vie, propices à l'action, à la gouverne de soi et du monde, dès lors qu'on les domine. Si vous voulez, nous avons des affects qui ne font que passer. Ces affects se construisent en émotions, là ils prennent une importance. Si vous le continuez dans la durée et dans l'approfondissement, ça devient une passion. Mais cette passion n'est pas nécessairement un égarement passionnel. C'est la dérive des passions en égarement passionnel qui est morbide, qui est égarée, qui est aliénant et qui est ruineux. Et le grand problème quand on voit le mot passion au XVIIe siècle, c'est qu'on ne sait jamais si les gens l'emploient au sens, je dirais, neutre, vous voyez, au sens descriptif, ou bien au sens normatif, c'est-à-dire au sens négatif d'une dérive, d'une dégénérescence. Et le pivotement entre les deux, évidemment, c'est là que va se situer la tragédie. Paradoxe donc de la situation, la tragédie montre trois héros pleinement puissants et maîtres de leur destin. Un roi, un fils et une fille de roi, rendus libres par la disqualification, l'absence ou l'anéantissement de leurs parents, mais qui passent au statut d'objet de leur passion maladive, qui entraînera
leur anéantissement. Cependant que celles qui étaient distribuées par la donne initiale de la tragédie en objet, la captive convoitée, objet de sujétion et de désir non réciproques, est contrainte de se hisser au statut de sujet, mieux de conquérir ce statut de sujet à la faveur d'un manque. Non pas parce qu'elle est exempte de passion, au sens où elle éprouve de réelles et fortes émotions, capables même de devenir obsessionnelles. Il y a une obsession de tristesse et de douleur du deuil, il y a un attachement maternel, il y a une crainte pour son fils, une détestation pour le mariage de Pyrrhus, ce sont des passions qu'éprouve Andromaque. Mais elle est exempte de la passion qui fait mal tourner les autres. Elle est exempte de la passion qui tourne les autres en folie et en fureur. C'est le désir amoureux, frustré. Elle n'éprouve pas ça. Et c'est pour ça que ces passions ne tournent pas mal. Alors ça, c'est l'équation racinienne, vous voyez. C'est pas l'équation normale. C'est ce que Racine a ajouté. C'est que ce qui rend les passions humaines aberrantes, ce qui les fait dériver en maladie, nous on dirait en névrose, enfin je sais pas, ou en psychose, tout ce qu'on veut, c'est l'amour. L'amour frustré, évidemment, c'est-à-dire l'amour qui marche pas, qui est une fatalité de l'être humain, et qui est la source de tout égarement passionnel. L'amour d'Andromaque pour Hector, pacifié par le deuil, n'est plus une passion amoureuse, c'est-à-dire que ça n'a jamais été, puisqu'ils s'aimaient l'un l'autre. L'amour ne tourne en passion que quand l'un des deux, pas l'autre. Il n'y a pas eu d'obstacle, sinon la disparition de son époux. C'est un deuil. Son attachement pour son fils Astyanax, magnifié par le devoir, est passionné sans doute, mais il n'est pas passionnel. Elle n'a pas un amour passionnel pour son fils. Elle a un amour passionné, une affection maternelle. La tragédie opère donc la scission entre le sentiment et la passion, entre l'affectivité et la perversion passionnelle. En promouvant la passivité d'Andromaque captive en moteur d'une action libre, en inversant l'objet qu'elle est par son esclavage, en sujet de son destin, par l'absence de maladie passionnelle. Elle a des sentiments, Andromaque, elle éprouve des émotions, mais elle ne les dérive pas, elle ne les pervertit pas en passion. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas amoureuse, oui, mais pourquoi ne l'est-elle pas au sens maladif des autres ? Peut-être parce que le temps ne coule pas pour elle dans le sens de l'avenir. Pour éprouver une passion amoureuse à l'égard de quelqu'un qui ne vous aime pas, il faut penser que peut-être demain ou après-demain, il vous aimera. Pyrrhus, de ce point de vue, est très fort là-dessus. Mais même Hermione et même Oreste, ils n'arrêtent pas de le dire. Ils sont tournés vers l'avenir. Vous savez que c'est une terrible maladie, une maladie de jeunesse, d'être tournée vers l'avenir. Rivée comme elle est au souvenir de Troie, Andromaque est passée de l'autre côté du fleuve de la vie. Elle ne connaît pas la morsure de ce truc qu'on appelle le désir, qui est une pulsion d'avenir, parce qu'ordinairement le désir c'est pas tourné vers le passé, c'est tourné vers l'avenir, sauf chez Proust, mais il était un peu bizarre, parce que pour elle la promesse d'avenir n'a pas de sens. Son fils même, qui pourrait être une promesse d'avenir, me direz-vous, car vous l'avez objecté dans votre barbe, son fils, elle ne le voit pas comme une destinée à construire, comme une vie à vivre. Elle le voit comme une relique à conserver, comme une trace à faire survivre. Mais ce qu'elle demande pour Astyanax, c'est qu'il aille pleurer dans une île perdue avec sa mère. C'est pas une vie. Elle demande simplement qu'il survive. Alors que les fureurs passionnelles, ce sont celles des héros du présent qui se croient un avenir. Andromaque, elle échappe au présent. En amont par son veuvage, en aval par le rattachement de sa maternité à ce veuvage. Ces deux attachements ne laissent pas place à l'amour-passion. Et l'amour-passion, qu'est-ce que c'est ? C'est le fruit maléfique de la conjugaison du présent et de l'avenir. Passion du présent qui se projette dans l'avenir immédiat. Ce que Racine appelle la passion, c'est-à-dire l'amour-passion, nous avons un autre nom pour ça. Nous appelons ça le désir. Il ne faut jamais oublier, il y a un parallèle historique intéressant, je vous le signale, vous pouvez le glisser dans une copie, ça fait toujours bien, vous le savez peut-être d'ailleurs. La tragédie d'Andromaque, créée en 1667, n'est postérieure que de 2 ans au Don Juan de Molière, en 65. Il faut rapprocher Andromaque de Don Juan, il y a une proximité intéressante. On voit donc dans la tragédie Andromaque les passions morbides s'agglutiner autour de l'amour-passion, comme attirées par l'aimantation de l'amour-passion dans les cœurs agités des tourmenteurs d'Andromaque. Regardez tous les sentiments qu'il y a, toutes les passions, donc la jalousie, la colère, la peur, le désespoir, tous portés à leur paroxysme morbide. Et ces trois héros, ces trois jeunes héros, ont beau projeter leur fureur de destruction dans l'âme d'Andromaque, elle leur échappe parce qu'elle n'est ni de leur temps, ni de leur monde, ni de leur race, ni de leur registre passionnel. Pour emprunter une métaphore scientifique, on dirait qu'elle est perdue dans une boucle du temps. Même son projet de se donner la mort est serein, médité, assuré. Ça résout lucidement son dilemme. Elle avait un dilemme, fallait-il trahir le souvenir d'Hector en épousant Pyrrhus ou en perdant Astyanax ? Non, elle a trouvé la solution. Elle peut bien être malmenée, divisée, écartelée comme Pyrrhus, Hermione ou Oreste, qui tout au long de l'action se déchirent entre eux et chacun en lui-même. Jamais le déchirement ne surgit d'elle comme sujet. Elle est objet de la fureur passionnelle de Pyrrhus, elle est objet de la fureur jalouse d'Hermione, elle est objet des calculs et des revirements destructeurs d'Oreste. Elle illustre, si vous voulez, je dirais même qu'elle répercute l'ardeur des passions des autres. Elle est comme un écran sur lequel se peint le film de leur déchirement à eux. Et au dénouement, quand la nature autodestructrice de leur passion à tous trois va les avoir tués, elle seule, elle survivra à la destruction. Parce qu'elle est libre de la passion, devenue sujet par l'effet de son statut d'objet soumis à des forces extérieures, à des pressions, à des tensions, à des agressions qui ont dégagé l'espace de sa liberté intérieure. Il y a là un paradoxe, si vous voulez, de la pression extérieure et de la liberté intérieure. C'est le paradoxe de la liberté du captif. Racine n'avait qu'à chercher dans sa bibliothèque pour en trouver l'incarnation dans un texte antique qu'avait revivifié la sagesse de la Renaissance. C'est la Consolation de philosophie de Boèce. C'est un texte qui a été composé autour de 524 par un prisonnier promis à la mort entre diverses séances de torture particulièrement horribles et qui s'en libère par le dialogue imaginaire qu'il noue sereinement avec la philosophie. Et ce texte qui est vraiment parangon de la littérature du temps et de la morale du temps, tout le monde connaissait la Consolation de philosophie de Boèce, c'est un peu oublié aujourd'hui, ce texte est un peu, pour moi, le catéchisme d'Andromaque. Voyez. C'est-à-dire, plus elle souffre, plus elle est libre, plus on la fait souffrir, plus elle est libre, parce qu'elle a acquis cette sérénité intérieure en dialoguant avec la mort. Bref, par rapport à l'Iliade, l'éventail des passions a été réorganisé par la tragédie de Racine, qui a élaboré une véritable tragédie des passions, et il les a réorganisées, non pas autour de la colère, mais autour de l'amour. L'amour qui est une passion romanesque, qui subsume les autres et qui se substitue à la colère, qui était une passion guerrière. Racine est en somme passé du modèle épique, du modèle guerrier, au modèle romanesque. En intermédiaire entre Homère et lui, Euripide avait écrit une tragédie, une Andromaque, en 426 avant Jésus-Christ, avec une trame où apparaissaient les personnages que va reprendre Racine. Il y avait une Andromaque captive, qui était la concubine aimée de Pyrrhus, et qui devait fuir la jalousie d'Hermione, épouse légitime de Pyrrhus. C'est un peu différent, vous voyez, Hermione était parvenue à ses fins chez Euripide. Andromaque cachait en vain son fils avant de s'enfermer dans un temple. Le fils n'était plus celui d'Hector, c'était celui qu'elle avait eu avec Pyrrhus, mais elle l'aimait parce qu'elle en était la mère. Ménélas, le père d'Hermione, qui apparaît dans la pièce d'Euripide, parvient à se saisir et d'Andromaque et de son fils, et il va les immoler pour venger l'honneur de sa fille, parce que Hermione s'estime trahie par Pyrrhus, qui a fait un enfant à sa captive Andromaque. C'est alors que Pélée, le grand-père de Pyrrhus, le père d'Achille, intercède en leur faveur. Hermione s'enfuit donc, parce qu'elle pense que quand Pyrrhus va rentrer, il se vengera. Pyrrhus était parti voir les dieux du côté de Delphes. Mais on apprend que Pyrrhus a été tué à Delphes par Oreste, qui par amour pour Hermione a massacré Pyrrhus. Bref, La colère d'Achille, la colère que les dieux avaient inventée pour rendre les hommes mortels, s'était transposée dans le cœur d'Hermione, dans cette tragédie. Épouse furieuse, Hermione, secondée par son père et son ancien fiancé. Vous voyez que c'est une première version de la tragédie, je vous raconte pourquoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu d'amour dedans. C'est une version d'Andromaque sans amour, ou du moins, l'amour paraît très secondaire par rapport au dépit, à l'orgueil froissé, au souci de la gloire. Quand Hermione se plaint, c'est pas parce que Pyrrhus ne l'aime pas, c'est romanesque et puis c'est pas encore de l'époque. Non, elle se plaint parce qu'elle est princesse et elle a été trompée par son prince, par son roi, avec une captive. Donc elle est humiliée. Vous voyez, c'est une autre version des passions, c'est une autre version de la même trame, mais autour du souci de la gloire et de la haine recuite dans cette passion vindicative et meurtrière qu'est la jalousie, Chéoripyle mène l'action sur la voie du malheur et celle du destin de Pyrrhus. Par rapport à cette version d'Euripide, vous savez sans doute qu'une version allégée et simplifiée, réorientée aussi, avait été versifiée par Virgile dans l'Énéide, autre épopée dérivée de la légende troyenne. Vous savez, Racine, dans sa préface, dit qu'il s'est inspiré de l'Énéide, de Virgile et pas d'Euripide. Ce qui était intéressant dans ce bref résumé, c'est que la tristesse d'Andromaque était mise en parallèle avec l'ardeur amoureuse de Pyrrhus et d'Oreste. Racine dit qu'il ne s'est inspiré d'Euripide que pour silhouetter le caractère d'Hermione, c'est-à-dire la jalousie, ce qu'il a fait en mettant l'accent sur la passion jalouse, plus d'ailleurs que sur le souci de gloire d'Hermione. Vous voyez comment tout se réorientait autour, disons, d'une passion non partagée. Pyrrhus, violent et inconstant, Oreste, enflammé d'amour et délirant, Hermione, jalouse et vindicative, Andromaque, triste et plaintive. Le registre des passions était en place dans le petit passage qui est en tête de la préface d'Andromaque. Si vous avez le temps de lire la préface, vous trouverez ces vers. En place pour la tragédie que Racine allait tirer de ses sources. Il lui restait simplement à modeler cette trame sur la chaîne des amours non partagés. Vous savez, cette fameuse chaîne qui est imitée de la pastorale et qui fait que Oreste aime Hermione qui ne l'aime pas, Hermione aime Pyrrhus qui ne l'aime pas, Pyrrhus aime Andromaque qui ne l'aime pas. Et ce jeu de l'enchaînement qui noue une tragédie, donc de l'amour-passion. Il a donc imaginé un simple changement, c'est que Pyrrhus préfère Andromaque à Hermione, comme chez Euripide, et qu'Oreste ne tue pas Pyrrhus par jalousie, mais pour obéir à Hermione, pour obéir à la jalousie d'Hermione. Pour comprendre les modifications qui sont opérées, il faut comprendre que Racine écrit avec des influences, sous des influences. Je me permets d'insister là-dessus, c'est un petit peu trop peut-être de l'histoire littéraire, mais ça fait partie aussi de la compréhension de ce que sont les passions. La tragédie française, à l'époque où Racine entre en scène, entre en lice, c'est une tragédie qui s'est reconstruite autour de l'amour. C'est une tragédie assez sucrée, assez pastorale, assez gentille, tendre et galante. Elle a donc promu l'amour comme ressort et comme objet majeur du genre. On allait même voir Corneille, le grand Corneille, céder à la tragédie doucereuse et amoureuse. Racine veut bien satisfaire ce goût, mais il veut revenir au grand tragique des Grecs. Si bien que il fait une espèce de mélange. D'un côté, la tragédie grecque du conflit au sein des alliances, du conflit entre les hommes arbitré par les dieux, soumis à la fatalité, il le récupère, mais il n'ose pas trop y insister, parce que c'est quand même pas très chrétien, pas très XVIIe siècle. Mais d'un autre côté, il y avait une dramaturgie latine, une tragédie latine, dont Sénèque avait apporté des éléments, et dont on peut dire que cette tragédie était une tragédie de la souffrance, de l'homme abandonné à ses passions folles. C'est là le modèle de l'homme passionnel, vous voyez. C'est chez les Latins qu'il va le trouver. Incapable, l'homme, de parvenir à l'ataraxie. Je suppose que vous avez une petite teinture de philosophie. Vous savez que le stoïcisme dit que le sage est heureux quand il est exempt des passions. C'est ce qu'on appelle l'ataraxie. Et donc, les personnages de la tragédie de Sénèque sont incapables de ce calme souverain et flegmatique du sage qui sait juguler ses passions. Et puis, la tragédie chrétienne était intervenue entre-temps pour renouveler l'image de la fatalité en la transposant dans la providence divine. en disant qu'il n'y a plus de fatalité grecque, mais il y a quand même le Dieu des chrétiens qui, par le péché originel, explique la misère de l'homme en proie à ses passions. Et Racine de cela va tirer une solution fédérative qui explique pourquoi la passion est au centre de sa tragédie. En effet, la solution qu'il imagine, c'est de composer sur le modèle latin une tragédie des passions exacerbées. Il l'organise, pour satisfaire à l'esprit moderne, autour de l'amour. Et il intériorise l'amour en fatalité personnelle, équivalent de la fatalité des Grecs. Mais la fatalité qui, chez les Grecs, venait d'en haut, venait du ciel, il la rabat sur l'homme incarné et déchu dans l'optique chrétienne du péché originel, de la malédiction de la chair. Vous voyez comment l'ensemble se met en place, se fédère harmonieusement. C'est une fédération des civilisations, c'est une fédération des religions, c'est une fédération des esthétiques, et c'est une fédération des diverses conceptions de l'homme, je dirais, des anthropologies. Cette synthèse lui permet de renouer avec la syntaxe des passions élaborée depuis l'Iliade. Andromaque va en offrir un tableau exhaustif qui met en scène autour de l'amour l'ensemble des passions de la tradition scolastique, de la tradition du Moyen-Âge, le désir et la haine, la hardiesse et la crainte, l'espérance et le désespoir, la colère, le plaisir et la douleur. Mais, et là c'est sa spécificité, Racine ajoute à ce tableau à deux dimensions le relief d'une troisième dimension. C'est ça son apport. Qu'est-ce que c'est ce relief ? À cette répartition figée, il imprime une dynamique nouvelle, c'est la dynamique d'une intériorisation. C'est l'intuition d'une pénétration dans l'intime, la suggestion d'une intériorité cachée et obscure, où les passions, et singulièrement l'amour, révèlent, sous l'apparence de la malédiction divine qui vous envoie les passions, sous l'apparence de la viscéralité honteuse de la chair, quelque chose de complexe qui est le labyrinthe psychologique et affectif du désir, de ses ruses, de ses violences, de ses forces obscures. Si vous voulez, il y avait un tableau à plat, Racine met une perspective qui est comment ça s'intériorise. Est-ce qu'il y a une boîte noire, si vous voulez, dans l'homme, avec cette intuition que l'amour passionnel, qui résume l'ensemble des autres passions, cache le principe de leur puissance. Une puissance impérialiste, dévastatrice, rappelez-vous l'adjectif d'Homère ou l'Homénène, ruineuse, ce que nous appelons le désir. C'est formidable de penser que Freud va reprendre le vieux mot de libido, qui est un mot du vocabulaire chrétien, un mot que connaissait bien Racine, qui est bien connu des moralistes et des auteurs spirituels, pour désigner cette force obscure et fondamentale. Racine ne la désigne pas, nulle part vous ne trouverez le mot désir. Racine, c'est pas Freud, beaucoup trop tôt. Mais il y a, dans la mise en scène de son écriture, dans la manière dont il conçoit les personnages, cet effet de perspective que nous avons dans un tableau. Le tableau est tout plat, mais pourtant on a l'impression qu'il est profond. C'est un effet d'œil, un effet oculaire. Ben, c'est la même chose. Les personnages du théâtre n'ont pas de passion, ils n'ont pas d'intimité. Hermione s'écrit « Ah mon Dieu que je souffre », on se dit « Elle dit ça parce qu'elle souffre ». Non, c'est le contraire. C'est parce qu'elle dit « Ah mon Dieu que je souffre » qu'on croit qu'elle souffre. C'est ça le théâtre. C'est imaginer une intériorité a posteriori. Mais évidemment, nous, on imagine que c'est parce qu'elle a une intériorité qu'elle crie. Et c'est cela que le théâtre de Racine met en place. Et il comprend que la base de tout, la clé de tout, c'est pas la colère d'Achille, c'est pas le dépit d'Hermione, sa gloire, son orgueil froissé, non, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est cette chose qu'il ne nomme pas, mais dont il sent que c'est la bête tapie dans le labyrinthe, c'est-à-dire le désir. Je vais commencer par le tableau fixe, à deux dimensions, des passions chez Racine, pour voir comment ça fonctionne. Et puis après, si vous voulez, je parlerai de la troisième dimension, c'est-à-dire de la perspective, hein, l'intériorisation. Je commence par le tableau fixe, qui organise l'inventaire des passions dans cette tragédie. Voilà une tragédie qui met en scène quatre héros. Leur nombre les prédispose à incarner chacun, de manière emblématique, un des quatre caractères dominants de l'anthropologie ancienne. Vous savez en effet que la cosmologie des anciens est gouvernée par quatre, par le chiffre 4. Le corps est sillonné par quatre liqueurs qu'on appelle des humeurs. L'humeur rouge, le sang. L'humeur jaune, la bile ou le fiel. L'humeur noire, la trabile ou mélancolie. Et le flegme, l'humeur blanche, qu'on appelle aussi la pituite. La domination de l'une ou de l'autre de ces humeurs dans le mélange sanguin induit un tempérament qui détermine l'identité physique et morale de chaque individu. Évidemment, si vous avez beaucoup d'humeur noire, vous allez devenir très mélancolique. Si vous avez beaucoup d'humeur rouge, vous allez devenir très sanguin. Enfin, vous voyez comment ça se présente. Et l'interaction du physique et du psychique permet donc de dégager quatre caractères. Le caractère sanguin, le caractère bilieux, le caractère phlegmatique et le caractère mélancolique. Et au terme d'une très lente systématisation, je vous raconte là l'espace de 10 ou 12 siècles, ça se combine avec une cosmologie quadripartite. En effet, tout l'univers est divisé par quatre. Vous avez les qualités chimiques, le chaud, le froid, le sec et l'humide, les saisons, elles sont quatre, les âges de la vie, les climats, les planètes, la nourriture, la boisson, les traits physiques du corps, le visage, les qualités intellectuelles, les sentiments, les passions, tout se répartit et s'associe selon des dosages plus ou moins purs de ces quatre éléments fondamentaux. Dans la tragédie d'Andromaque, qui est presque trop parfaitement allégorique sur ce point, les trois jeunes agités... Bonjour l'oursine, on vous retrouve. Vous nous entendez? Faites un geste. Oui, bonjour, très bien. Voilà, j'ai à peine avancé, mais vous trouverez derrière moi à peu près ce qui s'est dit, donc ça va. Donc je vous disais, dans la tragédie d'Andromaque, qui est allégorique, les trois jeunes agités sont en proie à la passion dominante qui correspond à leur tempérament, qui colore leur manière d'éprouver la passion amoureuse. Oreste est mélancolique, voué à l'instabilité, il est donc porté au désespoir amoureux et de là à la folie par détresse. Il incarne un type connu, celui du mélancolique par amour, que sa passion mène à l'idée fixe, aux excès délirants, à la fureur, à la folie hallucinée. Hermione, la bilieuse, la jalouse, vit l'amour effectivement sur le mode du dépit, de la jalousie, de la vengeance qu'elle finira par tourner contre elle-même. Paradoxe de la jalousie devenue égarement passionnelle, elle préfère tuer celui qu'elle aime plutôt que de le voir possédé par une autre. Mais, incapable de vivre sans lui, elle meurt de la mort qu'elle a donnée sans assumer son souhait. Et c'est un beau symbole d'ailleurs de son solipsisme et du fantasme que constitue une passion. Pyrrhus, il est sanguin. Il est donc la proie des atermoiements fougueux de son humeur ardente. Le sang, ça vous pousse à l'enthousiasme, à la colère, à l'ardeur. Alors, évidemment, vous passez d'un extrême à l'autre. Le sang est chaud, et le sang de Pyrrhus est impatient, inquiet, mais vraiment au sens qu'il n'est pas quiet. Il ne sait pas s'arrêter. Alternativement, porté aux excès contraires, aux égarements de ses illusions, tantôt il croit se faire aimer par le raisonnement, la prière, la supplique, et puis tantôt il se fait aimer, ou il croit se faire aimer par la terreur, la violence, le chantage. Tantôt il croit même qu'il est capable de ne plus aimer, tu parles. Sa passion le rend victime d'une illusion permanente, comme Oreste est victime d'une hallucination morbide. Tous ces trois personnages vivent dans la dénégation qui correspond à leur passion dominante. Andromaque, elle, subit phlegmatiquement les assauts de ces emboîtements d'agression. Elle s'efforce de s'en écarter, de s'en retirer, d'échapper, de se mettre à l'abri, si vous voulez, de mettre à l'abri son fils. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est indifférente, elle est phlegmatique au sens où elle serait impavide, si vous voulez, mais elle demeure capable de déterminer entre les excès contraires et également pernicieux de la placidité et de l'emportement, la voie moyenne de la maîtrise raisonnée de ses émotions. Si vous voulez, elle est phlegmatique en ce sens qu'elle ne laisse pas tourner les émotions qu'elle éprouve en passion. Et elle est donc maîtresse de ses décisions, qu'elle ne laisse pas entamer par la sidération ni par la précipitation. Protégée par son flegme de l'embrasement et de la désespérance mortifère, elle pactise constamment avec la mort qui l'épargnera. En effet, à la recherche d'une action de persuasion, elle invente, en méditant sur le cétonotaphe d'Hector, ce subterfuge, cette ruse. C'est, les Grecs appelaient ça une métis. C'est quelque chose de plus profond que la ruse. C'est vraiment une conception globale du rapport à la réalité qui est un rapport fictionnel. Elle envisage donc cette métis, ce subterfuge du mariage sans consommation, ligotant Pyrrhus par son serment et protégeant Astyanax par la disparition de sa protectrice même. La mort, le mort, ont dicté à Andromaque le stratagème de sa mort, réitérant l'acte premier d'où tout avait surgi, la mort d'Hector. Si vous voulez, cette tragédie réitère la mort première, la mort d'Hector tué par Achille sous les armes de celui-ci, et qui a lié d'ailleurs Achille au destin de sa victime, puisque c'est qu'Achille sera tué par le frère d'Hector, Paris. Et de même, le fils d'Achille, Pyrrhus, a vengé cette mort en saccageant la ville et en précipitant le peuple de Troie dans la fameuse nuit éternelle, vous connaissez ces vers, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Andromaque, inspiré par l'ombre d'Hector, va réitérer le sacrifice de celui-ci en forçant la main du fils d'Achille, par qui, mourant, elle entend le contraindre de sauver le rejeton d'Hector. Or, le projet qu'a conçu Andromaque, il va être renversé. Il va être renversé par quoi ? Eh bien, bien sûr, par le jeu des passions, qui est le véritable acteur de la tragédie. Car le jeu des passions, c'est ça le moteur de la tragédie. C'est Andromaque, veuve de Pyrrhus, qui reçoit de lui le devoir de protéger son royaume contre les Grecs, ligués pour sa perte. Décidément, les Troyens sont toujours un sujet de guerre entre les Grecs. Oui. C'est la continuation du projet de l'Iliade. L'acte libre d'Andromaque soustrait ainsi aux passions, et visant à soustraire Pyrrhus au ciel en les frustrant pour le ramener à son devoir, c'est donc un suicide, une destruction de soi par soi. Paradoxalement, Hermione par passion effectue le même acte en parallèle. Mais l'acte d'Hermione est effectif, sa passion la tue, elle se suicide vraiment, elle en meurt. L'acte d'Andromaque est rendu inutile par le meurtre de Pyrrhus, elle survit. Et les trois amants sont emportés ainsi par la mort de leur corps et de leur esprit, tandis qu'Andromaque conclut la pièce comme autrefois se concluait l'Iliade, par un rite funèbre, un rite funéraire en somme, rendu à Pyrrhus, qui par là devient le double d'Hector. La fidélité, qui est une vertu mais pas une passion, la fidélité à son mari héroïque, devenue figure paternelle, et à son fils, pour qui elle est une divinité maternelle, se complète d'une fidélité nouvelle au mari d'un jour, au mari d'un moment, à celui qui vient d'être tué dès qu'elle lui a dit oui, dont elle épousait la cause. Et d'ailleurs, dans une première version du dénouement, on la voyait même prendre les armes, enfin, agir en tête des hommes de Pyrrhus, des sujets de Pyrrhus, des épirotes, pour garder le cadavre de Pyrrhus et rejeter les Grecs à la mer. Dans la version définitive, Racine a préféré l'avouer à une attitude uniquement de veuve, si vous voulez, qui rend un hommage funèbre à Pyrrhus, comme jadis Achille avait rendu un hommage aux cendres d'Hector. On voit donc que le pacte résonné avec la mort d'Andromaque dans cette deuxième version, celle que vous avez lue, est comme approfondie, si vous voulez. Elle part d'une mort vers une autre, d'un veuvage vers un autre, sans que son action en faveur de la vie de son fils en soit diminuée. La fidélité chez elle ne se manifeste plus par une action militaire ou politique, mais par une action de piété, une action sacrée, qui répond d'une autre façon, plus approfondie, aux troubles stériles et morbides, mortels, de la passion. En somme, la grammaire des tempéraments, c'est ce que je viens de présenter, cette espèce de syntaxe des tempéraments distribuée entre les quatre personnages, est ainsi sauvée de ce qui aurait pu y avoir d'artificiel, parce que d'un côté un peu, hein, je divise en quatre, bon, ça fait galette des rois. Donc, mais c'est sauvé de cet artifice, c'est sauvé de ce schématisme un peu démonstratif, par un jeu constant de paradoxes, de contradictions, de retournements, au théâtre on appelle ça des péripéties, qui donnent à la fatalité tragique le caractère palpitant et imprévu d'une intrigue romanesque. C'est pour ça que je vous disais que Racine a récupéré l'amour d'une conception du roman. Il y a une trame, une intrigue dont on attend la fin quand on ne la connaît pas, dont on se dit comment ça va finir, puis il y a quand même un coup de théâtre, puisque c'est Andromaque qui s'en sort, et on pensait que c'était la seule qui allait mourir. Il y a là donc un effet romanesque, si vous voulez, mais ce qui donne sa vie profonde à cette tragédie, ce que le roman d'ailleurs a aidé Racine à construire, c'est bien sûr l'illusion d'une intériorité psychique des personnages, c'est la dynamique d'intériorisation des passions à laquelle je viens maintenant, l'illusion, si vous voulez, d'une intériorité où les passions bouillonneraient et d'où elles jailliraient. Cette dynamique d'intériorisation des passions, je vous le disais tout à l'heure, c'est une ficelle du théâtre. Quand Hermione s'exclame, en réalité, ce qu'elle dit, c'est « Quel transport me saisit, quel chagrin me dévore ?» Alors évidemment, le spectateur croit qu'elle gémit parce qu'elle souffre, alors qu'en réalité, le spectateur croit qu'elle souffre parce qu'elle gémit. Donc c'est l'inversion théâtrale, et il en va de même pour l'effet d'approfondissement de la passion dans une intimité qui ne préexiste pas pour l'y recevoir. Si vous voulez, Racine n'a pas le vocabulaire, il n'a pas la conception de l'homme, il n'a pas l'image implicite que nous avons, nous qui avons plus ou moins lu Freud, enfin, puis qui avons quelques idées, puis le 19e siècle est passé par là. Vous avez lu La Cousine Bête, je suppose. Oui, plus ou moins. Vous avez bien compris qu'on analyse en détail ce qui se passe dans le cœur des gens. Il y a une spectrographie, quelque chose comme une anatomie. Mais ce n'est pas du tout ça, chez Racine. Ce sont simplement des mots mis en place et qui fait que l'expression de la passion suppose, creuse et stabilise l'intériorité humaine comme un prolongement nécessaire de son propos. Pour comprendre le tournant que la dramaturgie de Racine a marqué dans ce domaine, il faut en revenir à une très vieille idée de très longue durée. Vous voyez que j'aime bien partir loin pour expliquer les choses. Il faut toujours remonter. Il faut en revenir à la lente et longue édification de l'individualité, de la subjectivité, de l'intimité comme une valeur de l'anthropologie dans la culture occidentale. Il y a, si vous voulez, des étapes décisives dans ce long cheminement qui fait que, dans notre culture, l'individu est plus important que le groupe. Ce qui n'est pas le cas de toutes les cultures. Et qui est une spécificité qui plonge dans un passé, c'est très lointain, philosophique, imaginaire, etc. Or, une étape décisive a été constituée dans la période de deux siècles qui est ouverte par les essais de Montaigne, 1580-1588, et refermée par les confessions de Rousseau, 1782-1789. Vous voyez, en deux siècles exactement, de Montaigne à Rousseau, et singulièrement au cours de ce XVIIe siècle, où s'élabore la philosophie héroïque du sujet pensant, avec Descartes, avec Corneille, on a l'impression que quelque chose se met en place autour de l'intériorisation du sujet comme valeur fondamentale du groupe. Si vous voulez, c'est l'époque, le XVIIe siècle, où il y aura l'amour-propre traqué par La Rochefoucauld et Pascal, et considéré comme un objet d'anthropologie morale et religieuse. C'est l'époque aussi de la comédie et de la tragédie de caractère élaborée par Racine et par Molière. C'est l'époque du roman d'analyse incarné par la princesse de Clèves. Cet effet d'intimité que l'on trouve au cœur du XVIIe siècle ne doit pas être confondu, je vous le disais, avec l'introspection ou avec la promotion de l'intime qui, au début du XIXe siècle, va être élaborée par le romantisme, avec des nouveaux outils conceptuels, stylistiques et scientifique. Ce qu'on appelle au XVIIe siècle l'anatomie morale, et singulièrement l'anatomie des passions, c'est l'effet d'une intuition formulée encore dans un vieux langage, le langage des passions scolastiques. Vous avez remarqué en lisant La Cousine Bête, il n'emploie plus tout à fait les mêmes termes qui sont comme sclérosés dans la langue de Racine, qui sont des termes qui arrivent tout lestés de la mémoire et du poids de ce qu'a écrit Aristote, de ce qu'ont écrit les moines Moyen-Âge, enfin, de cette scolastique qui fait que la langue se ressent encore du Moyen-Âge et de la Renaissance, interprétant l'héritage de l'Antiquité très antérieurement à ce qu'on appellera la psychologie. Il n'y a pas de psychologie chez Racine. Il y a une rhétorique, il y a un usage du langage qui fait que nous avons l'illusion de la psychologie, mais cette psychologie, elle triomphera au XIXe siècle, et vous savez qu'à peine aura-t-elle triomphé, elle sera battue en brèche par l'intuition freudienne de l'inconscient. C'est ça l'histoire du rapport de l'homme avec lui-même et avec ses passions. Une longue histoire qui prend cette couleur-là. Alors, le XVIIe siècle, que fait-il ? Ben, il bricole cette découverte à partir de débris des anciens modèles, des anciens langages, des anciens outils par lesquels l'homme se décrivait. Une nouvelle spatialité se dessine. Avant, l'âme surplombait le corps dans une hiérarchie qui allait de bas en haut, de l'enfer au ciel. La vie se déroulait comme ça, sur l'axe vertical, de haut en bas. Chacun de nos actes nous rapprochait ou nous éloignait de Dieu ou de Satan, sur la verticale d'une ligne dont le curseur déterminait nos chances de vie éternelle. Et puis à partir du XVIIe siècle, ce cadastre imaginaire change de paramètre. La vie oublie peu à peu son surplomb d'éternité et se déroule sur l'horizontale d'une ligne qui va de la naissance à la mort. L'idée de progrès va s'en déduire, et l'essor aussi de la science, qui substitue aux autres critères le critère de vérité et d'erreur. La flèche du temps, qui jusqu'alors remontait toujours vers l'âge d'or, c'était toujours mieux avant, cette flèche du temps se tourne vers l'avenir, prometteur d'amélioration. Le passé, c'est l'erreur, l'avenir, c'est la vérité. Autrefois, c'était le contraire. On remontait vers le passé pour connaître les vérités premières. Une autre distribution cadastrale commence donc à s'élaborer, qui va opposer le corps et l'esprit, la physis et la psyché, non plus sur le mode hiérarchique de l'apparence et la réalité. L'apparence, c'est le corps, la réalité, c'est l'âme. Non, c'est plus ça. C'est le monde spatial du dedans et du dehors. J'ai un corps, c'est mon dehors. Ce corps cache un dedans, c'est mon âme. On n'est donc plus dans l'âme, c'est supérieur au corps. Non, on est dans l'âme, c'est dedans, et le corps, c'est dehors. Et l'intuition qu'il faut aller dedans, qu'il faut pénétrer dedans. Une vieille image chrétienne, celle de l'homme intérieur, celui qui voit Dieu, qui s'opposait à l'homme extérieur masqué et trompeur, va laisser place, tout en lui offrant son modèle, à l'opposition qui s'épanouira chez Rousseau entre l'expérience intime et l'apparence extérieure. Le vrai est dans l'expérience intime, les rêveries du promeneur solitaire, pas dans le masque social. Alors apparaissent de nouvelles dialectiques, l'intention et l'action. L'action est trompeuse. C'est quand on voit l'intention qu'on comprend les gens. Le monde caché, secret, incommunicable du moi profond, celui de la rêverie, auquel Rousseau tente de donner une voix. Et puis, la traduction trompeuse qu'en donne le masque du mondain, les actes visibles, les paroles partagées. Cette intuition d'un moi profond, agitée de pensées si rapides qu'on les dit imperceptibles, c'est à l'époque de Racine qu'un de ses anciens amis de Port-Royal invente cette formule. Il dit: on ne peut pas être maître de tout ce qu'on pense, parce qu'il y a des pensées imperceptibles qui vont si vite qu'elles sont dans notre cerveau sans même qu'on s'en rende compte. Cette intuition étrange et profonde. Alors évidemment, c'est dans la tragédie de Phèdre, une décennie après Andromaque, qu'on trouvera la plus belle image de ça, c'est le labyrinthe. Vous savez que Phèdre rêve de descendre au labyrinthe avec le fils de son mari Thésée, qui s'appelle Hippolyte. Et ce labyrinthe où elle rêve d'emmener son beau-fils, dont elle était prise d'une passion adultérine et incestueuse qui les détruira tous deux, ce labyrinthe où habite un minotaure, c'est-à-dire un monstre, c'est évidemment quelque chose qui nous fait un peu rêver à l'inconscient freudien. Bien que ce ne soit pas la même chose, hein, mais malgré tout, il y a là une image de la vieille mythologie que Racine réutilise dans une conception nouvelle qui est vraiment étrange. Alors, bien sûr, Racine ne l'exprime pas tout ça avec une clarté conceptuelle et un langage outillé. Il approche ça à tâtons. Quand il emploie le vocabulaire des passions, nous sommes dans ces incertitudes. Il utilise, si vous voulez, comme le fera Freud un jour, la mythologie, quand Freud parlera du complexe d'Édipe, c'est retourner à la tragédie de Sophocle, mais il le fera d'une autre façon. Et c'est pourquoi Racine, à sa façon aussi, utilise les vieilles légendes troyennes, la mythologie grecque, pour essayer d'approcher des vérités qu'il pressent, sens des réalités, j'en sais rien, et auxquelles il essaie de donner une forme. Il approche aussi cette vérité à travers des images verbales, des jeux de mots, des figures de discours, en détournant la rhétorique galante, ces espèces de choses sucrées, je vous disais tout à l'heure, qu'il fait devenir des instruments de pénétration des mystères de la passion, dont il fait des instruments de sondage de l'intériorité, qu'en réalité il invente, parce que cette intériorité, elle n'existe pas avant lui, il invente plutôt qu'il ne l'explore. Ce que lui offre en l'occurrence le modèle très ancien des passions, qu'il reprend et qui a été d'ailleurs indéfiniment repris par les philosophes qui l'ont redéfini, par les moralistes en quête de nouveauté, ce modèle des passions, c'est un instrument un peu maladroit, c'est un couteau un peu ébréché, un peu biaisé, pour bricoler de nouveaux outils, pour dire des choses qui, nous paraissent simples. Par exemple, regardez une chose toute bête, la délectation dans la cruauté, ce qu'on pourrait appeler la cruauté mentale. Un jour, j'ai mis un de mes étudiants en master sur la cruauté dans Don Juan de Molière. Il est revenu bredouille. Il n'y a aucune expression claire de la jouissance qu'éprouve Don Juan à être cruel. On le sent quand on voit la pièce. Mais allez donc chercher un mot qui dit ça. Les mots ne le disent pas. Tout ce que l'on entend, c'est que Don Juan est un méchant homme. C'est un vocabulaire très pauvre pour dire une chose très profonde. Parce que le langage n'est pas là. Alors, que fait-on ? On use d'images, des approximations, des fulgurations de traits d'image, bref, des détours métaphoriques. Et c'est là que la chair du texte de Racine, les mots qui forment son texte, prennent sens. Un exemple en est fourni, par exemple, dans la relation entre Pyrrhus et Andromaque, dans cette passion donc, qui agite Pyrrhus. Avant que Andromaque n'évoque la nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle, bref, le génocide des Troyens, appelons les choses par leur nom, Pyrrhus avait comparé, si vous connaissez bien la pièce, vous devez avoir ça en tête, Pyrrhus avait comparé dans une tirade étrange les ravages qu'il avait commis durant le siège et durant la mise à sac de la ville de Troie à ceux qu'Andromaque commet sur lui en ne l'aimant pas. Je vous rappelle cette tirade qui est quand même pas piquée des hannetons. Pyrrhus, j'ai fait des malheureux sans doute, et la Phrygie, 100 fois de votre sang, a vu ma main rougie, mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés, qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont versés, de combien de remords m'ont-ils rendu la proie? Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie, vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, brûlé de plus de feu que je n'en allumais, tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes. Hélas, fus-je jamais si cruel que vous l'êtes? C'est quand même incroyable. C'est un personnage qui a commis un génocide et qui est en train de dire que ce qu'il éprouve du fait du dédain d'Andromaque, ben c'est pire que ce qu'il a fait subir à tout ce peuple. On est ici devant un trait extrêmement spirituel qui appartient à une rhétorique que l'on appelait galante, ça s'appelait même une pointe, et qui était très en cours dans les salons, connus sous le nom de préciosité. Vous avez peut-être lu les précieuses ridicules de Racine. Ce sont ce qu'on appelle des pensées ingénieuses. Alors, c'est une trouvaille, effectivement. Et Pyrrhus cisèle une pointe qui est, l'huile incendiaire, brûlée de plus de feu que je n'en allumais. Alors, vous avez compris, évidemment, c'est un jeu de mots. Vous savez que l'amour, on appelle ça les feux. On dit qu'on est brûlé par les feux de l'amour. Alors, lui, il dit qu'il est plus brûlé des feux de l'amour que ne fut Troie brûlée de l'incendie qu'il y allumait. Ça s'appelle une syllepse de métaphore. C'est pas un animal dangereux, c'est tout simplement une figure de rhétorique qui consiste à prendre le même mot dans deux sens différents, un sens premier et puis un sens imagé. Ce feu d'artifice, de trait d'esprit, nourrit une argumentation qui plaide pour, je dirais, l'absolution du rapt de Pyrrhus par un autre, d'une violence militaire au nom d'une autre. Le captif, c'est lui. L'incendiaire, c'est elle. Pyrrhus n'avait d'ailleurs qu'à se fournir dans l'arsenal de toutes les images caractéristiques que l'amour emprunte à la guerre, dans la culture des salons. Ça se fait beaucoup de parler de Cupidon comme d'un archer qui tire des traits qui vous blessent dans l'âme, qui vont vous faire mourir. Et pourtant, Pyrrhus ne ressemble à rien à un petit marquis sucré faisant les yeux doux à une belle. Parce que la tirade a tiré sa rhétorique imagée, cette manière étrange d'exprimer la passion, dans le creuset de l'horreur épique, de la légende troyenne. Arc-boutée à elle, celle d'Andromaque lui restitue l'ombre que l'horreur de la guerre porte sur les lumières de l'amour. Écoutez Andromaque dire « Songe, songe, ses fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, surtout mes frères morts se faisant un passage et de sang tout couvert et chauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque est perdu. Voilà comment Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. » Ça, c'est une tirade de violence. C'est la tirade de guerre, sur laquelle vient se greffer en perpendiculaire la tirade d'amour avec le même thème. Cette description exacerbée est un morceau d'art que Racine a évidemment ciselé parce qu'il sait écrire. On appelle ça même une hypotypose, c'est-à-dire un récit si puissant et si violent qu'il est supposé se substituer à la réalité qu'il évoque. Si vous voulez, l'effet que produisent les mots, est plus fort que la réalité vécue. C'est un effet. Si vous voulez, c'est un peu l'idée que ce texte devait produire sur le public du théâtre du XVIIe siècle, l'effet que provoque aujourd'hui sur nous un film comme Nuit et brouillard. Si vous voulez, un film sur les camps de concentration et sur les cadavres entassés, c'est sans doute l'effet que ça produit sur nos sensibilités. On est un peu plus lent à se mettre en train, mais c'est l'effet que devait produire des vers comme ça. Alors vous voyez le rapprochement que ça peut opérer quand Pyrrhus ose dire « Ah ben oui, mais ce que j'ai fait, c'est rien à côté d'eux. » Si vous voulez, Pyrrhus ne se montre pas comme un petit marquis trop sucré, mais comme un bourreau cynique. Je sais pas, comme le serait un dignitaire nazi, tombé amoureux d'une rescapée des camps de la mort, et lui reprochant qu'il souffre plus par elle qu'elle n'a souffert par lui. C'est portier de nuit, quoi. Ce serait tout aussi excessif, d'ailleurs, de penser que Pyrrhus est tout à fait cela. Non. Ce qui se dégage de cette réutilisation des poncifs de la préciosité, ce que Racine réussit à en tirer, c'est l'effarante puissance du désir et de la passion vue de l'intérieur par celui qui l'éprouve. Ce qu'il a réussi à nous donner par ce jeu, vous avez compris, qui est un jeu de rhétorique, c'est l'image intérieure que Pyrrhus se fait du monde vu à travers les lunettes de la passion. C'est ça la force de Racine, c'est d'avoir réussi à nous faire voir par les yeux d'un passionné le monde de façon complètement aberrante. C'est nous donner une leçon sur cette aberration que constitue la passion. Rarement, on aura dit si violemment, à travers la médiation de l'image, la puissance destructrice, ravageuse et aliénante de la passion et la souffrance d'être rejetée. Quand Hermione dit à Pyrrhus, à qui elle s'adresse, « Perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi », c'est un trait de vérité absolue. N'être pas aimé et se dire qu'elle l'embête. Et que finalement, il l'écoute se plaindre, et puis il se dit « J'aimerais bien être avec Andromaque ». C'est stupéfiant comme intuition forte. Et on a l'impression que ce que Racine a réussi à donner. C'est pour ça qu'il y a la troisième dimension, si vous voulez, la profondeur. C'est que les grands amoureux raciniens éprouvent ce sentiment terrible de susciter la répulsion des êtres qu'ils courtisent. Il y en a plein d'autres qui seront ainsi. Britannicus suscitera la répulsion de Junie. Phèdre suscitera la répulsion d'Hippolyte, comme Pyrrhus suscite la répulsion d'Andromaque, comme Hermione suscite la répulsion de Pyrrhus, et comme Oreste, celle d'Hermione. Pourquoi ? Parce que la passion terrifie celui ou celle qui en est l'objet sans la partager. C'est également une des choses fortes que Racine a perçues. C'est aussi fort que ce qu'écrit Balzac dans La Cousine Bête en détaillant les choses. Il ne le dit pas, Racine, mais on le sent. C'est, si vous voulez, le caractère terrifiant de la passion. La passion est une chose atroce. Si vous voulez, c'est le portrait de Dorian Gray. Du dehors, ils ont l'air pas mal, mais quand on voit ce que ça devient sur le tableau, alors là, c'est effrayant. La réaction des éléments éconduits, c'est de retourner en colère leur passion dédaignée, de retourner en vindicte leur attachement, de retourner en cruauté leur amour. Alors on dira, ils sont cyniques ? Non. Pire, ils sont aveugles. Et par-dessus ces horreurs que constitue la passion, il y a cette chose terrible qui est l'aveuglement. Parce que, comme l'a compris l'anatomiste de la passion qui est Racine, l'amour pervertit la raison, trouble le jugement, persuade les amoureux éconduits que l'objet fuyant de leur passion est coupable. Coupable de l'avoir suscité, coupable de ne pas vouloir l'assouvir. C'est ce qu'exprime Pyrrhus dans cette tirade qui est décidément un chef-d'œuvre de profondeur. Le sentiment que sa souffrance passionnelle, imputable aux yeux d'Andromaque, mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés, autorise à inverser la culpabilité du ravisseur violent sur sa victime ravissante. Je joue sur les mots. Que nous dit Pyrrhus ? Qu'il est captif de sa captive. C'est plus une image métaphorique d'amoureux galant. C'est une réalité. Qu'il est enchaîné à elle. C'est ce qu'il éprouve. Comment ose-t-elle donc lui reprocher d'avoir fait des ravages quand lui-même en est l'objet de sa part ? Eh bien, ce qui se découvre ici, et ce que fait découvrir Racine, c'est la mauvaise foi, au sens le plus fort, la mauvaise foi involontaire, nous on dirait inconsciente, de l'amant passionné. Ce que Pyrrhus est en train de dire, c'est un mensonge gros comme lui, et dont il n'est même pas capable de se rendre compte, parce que l'amour l'induit à ce crime en pensée qui consiste à considérer qu'Andromaque est coupable parce qu'elle ne l'aime pas. Bon, cela dit, si vous avez déjà été amoureux et n'avez pas été aimé, vous savez que c'est une réaction très naturelle. Nous sommes donc véritablement devant la tragédie des passions. Quelques années plus tard, dans Britannicus, quand Racine sera devenu plus habile encore dans cette science des profondeurs, il attribuera la même mauvaise foi de manière encore plus subtile au personnage de l'empereur Néron. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de Néron. Ne vous inquiétez pas, je reviens à Britannicus. Néron, vous le savez, dans cette tragédie, tombe amoureux de Junie, qu'il a fait enlever et dont il observe, caché dans l'ombre, son arrivée en larmes entre les mains de ses ravisseurs, c'est-à-dire des soldats que Néron a envoyés pour enlever Junie. Saisi à sa vue, explique-t-il le lendemain à son confident, il n'a pas pu lui parler, et toute la nuit il est demeuré hanté par son image, il ne l'avait jamais vue auparavant, et secoué par le coup de foudre qui vient de le frapper. C'est la foudre qui le frappe, et en réalité, il est frappé par une femme à laquelle il vient de faire la pire violence. C'est presque un viol. Il l'a enlevée en pleine nuit, en tenue de nuit, pour la soustraire au jeune homme dont elle est aimée et qu'elle aime. Et que dit Néron ? Écoutez sa tirade, écoutez bien les mots, car vous avez retrouvé Andromaque ici. Il s'adresse à Narcisse et lui dit « Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les crises et le silence, et le farouche aspect de ses fiers ravisseurs, relevés de ses traits limites de douceur, quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire de son image en vain, j'ai voulu me distraire, trop présente à mes yeux, je croyais lui parler, j'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler. Ce n'est pas du sadisme prématuré, qu'ici il faudrait voir. C'est la perversion d'un amour né dans le viol, et qui est la promesse d'une passion qui sera nécessairement frustrée. Or, c'est à travers une pointe, vous l'avez noté, là encore, un jeu de mots, que Néron exprime sa passion. C'est digne des analyses de Freud. Regardez le vers 3, le farouche aspect de ses pieds ravisseurs. Ben oui, il l'a fait enlever. Et qu'est-ce qu'il nous dit, deux vers plus loin, quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue. Ravisseur, ravi. C'est-à-dire que lui qui l'a enlevé, il estime qu'il est ravi. Je vous parlais tout à l'heure de la mauvaise foi inconsciente de l'amant qui n'est pas aimé. Ici, on a un jeu de mots qui est stupéfiant, car nous savons que le verbe ravir, il a deux sens. On peut être ravi de bonheur, et puis on peut être ravi au sens où on est enlevé. Eh bien, il l'a fait enlever, il a commis un rapt, mais il estime que la ravisseuse, c'est elle, puisqu'elle lui a ravi son cœur. C'est le même jeu sur les mots, et ce ravisseur ravi par la si belle vue de sa captive, c'est Pyrrhus, s'absolvant devant la sienne des crimes qu'il a commis au nom des souffrances qu'il éprouve. C'est le geste bien connu de l'amant éconduit, reprochant à celle qui ne l'aime pas de l'avoir affecté de la maladie du désir, de l'avoir affecté de la maladie de l'amour. Si vous avez une seconde encore, vous voyez qu'ils ont une seconde encore. Oui, ça peut aller. Je continue un tout petit peu. Oui, vous n'osez pas dire non. Vous êtes poli, merci. Il faudrait voir d'où Racine a tiré ça. Là, je vais vous raconter une chose étrange. Cette idée des yeux de la femme accusée de provoquer la maladie du désir chez l'homme. Vous savez qu'elle sort d'un imaginaire médical, médico-moral, celui de mal d'amour contracté par contagion oculaire. Je vous raconte ça, ça sort de Platon, ça sort du banquet de Platon. Platon explique que quand on est amoureux, on regarde le visage de l'être aimé. On le regarde constamment et on regarde ses yeux, parce que les yeux, c'est ce qu'il y a de plus beau dans les êtres humains. Alors, à force de regarder, des yeux de l'être aimé sortent des toutes petites particules de sang qu'on appelle les esprits animaux, les esprits de l'âme, parce que ce sont des yeux ordinairement rayonnants. On n'aime pas les gens qui ont les yeux ternes, on aime les gens qui ont les yeux bien brillants. Et donc, un petit peu du sang de l'être aimé passe dans les yeux de l'être amant. Ce sang arrive dans les yeux sous forme de particules invisibles, microscopiques, et puis ça descend à son cœur. Comme le cœur est un peu différent du cerveau, le sang se décoagule, si vous voulez, puis il se met à redevenir du sang. Ça fait que l'amant a un petit peu du sang de l'être aimé dans son cœur. Il ne sait pas quoi en faire, évidemment. Et puis ce sang, qui n'est pas avec son corps, réclame un rapprochement familial, si vous voulez. Donc, ce sang, l'être aimé, l'être amant, se sent un désir de le restituer. On ne va pas faire une transfusion sanguine. À cette époque-là, ça ne se fait pas. Alors, comment le restituer? Eh bien, il se trouve que le sperme, c'est une écume du sang. Donc, ce qui germe dans l'esprit de l'amant, c'est d'envoyer son sperme dans le corps de l'être aimé pour restituer le sang qui n'est pas le sien. Et pour que ce sang qui n'est pas à lui reparte dans le corps de l'aimé, il n'a qu'à lui envoyer son sperme dans le corps. C'est pour ça qu'on a envie de copuler avec les êtres qu'on a trouvés jolis. Vous voyez le système? C'est une interprétation médicale. Alors, croyez pas que c'est de la médecine pour rire, il y a des traités médicaux là-dessus, j'en ai plein, Escarcelle, si vous voulez, qui a été théorisé, donc, et puis qui avait été retrouvé à la Renaissance, notamment Marcel Fissin, le grand philosophe des Médicis avait renouvelé cette théorie. Et beaucoup de textes littéraires, ils font une allusion voilée. Chaque fois que vous lisez quelque chose sur « vos yeux m'ont embrasé », vous pouvez être sûr que derrière, il y a ce truc-là. Alors, bon, vous y croyez, vous savez, comme nous, quand on parle d'un type qui est parano ou qui a un complexe, ça ne veut pas dire qu'on a la théorie freudienne derrière nous, vous voyez. Paranoïa, bon, quand je dis d'un ami, maintenant, il est complètement parano, il faut que je fasse quelque chose, là. Vous avez raison. Ah oui, je suis très loin. Oh là là, oui, complètement oublié, donc vous êtes là. Bon, donc, modèle médico-moral, vous voyez. Donc, avec cette idée des particules de sang qui s'en vont. Et bon, vous me direz, c'est rigolo. C'est vrai, enfin, c'est ridicule, oui. Mais n'en sourions pas. Au début du sida, Moi, je suis assez vieux pour avoir connu ces débuts-là. Vous ne pouvez pas imaginer les préventions et les représentations de la contagion, de la propagation du mal, qui étaient tout aussi fantaisistes. Et les gens s'imaginaient quasiment qu'ils allaient l'attraper par les yeux, sinon par la salive. Oui. Donc, il y avait bien cet imaginaire qui existe souvent dans les sociétés. Et donc, le pouvoir de suggestion que recèle cette théorie, Racine n'y croyait pas. C'est évident, personne autour de Racine n'y croyait plus, et que quelques médecins attardés. Mais ça a une suggestion, puis ça dépose dans l'inconscient. Et ça permet à Racine de mettre en place, en transparence du langage galant dont usent les amants de son théâtre, une syntaxe du ravissement passionnel en trois étapes. Et la passion, elle fonctionne chez Racine selon ces trois étapes. D'abord, c'est l'attraction. Imputable au regard de l'être aimé qui vous embrase et vous ravage le cœur, comme Pyrrhus, comme Néron. L'attraction suscite évidemment la répulsion. Que fait Andromaque, que fait Junie? Elle se recule. La répulsion que suscite ce rapt chez celui ou celle qui en est l'objet, en l'occurrence, dans les deux tragédies, un rapt effectif, et qui fait image, on le comprend bien, du rapt affectif dans les filets du désir. Et d'un désir qui est terrifiant, car le désir de Pyrrhus et le désir de Néron sont des désirs affolants. Cette répulsion provoque, troisième volet, ce qu'on appellera la dénégation, c'est-à-dire le refus du ravisseur d'assumer la responsabilité de ce rapt dont il s'estime lui-même la victime, ravi qu'il est par le charme de sa victime, ou pour dire, comme le disent les textes, par la vue, par l'image, par les yeux de sa victime ravissante, mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés. C'est ça la syntaxe secrète de la passion amoureuse chez Racine. Cette syntaxe du désir amoureux, elle n'est pas de surface, comme celle du réseau des passions cadastrées par les philosophes. Elle plonge dans les ténèbres de l'intime, de ce qui est scellé, même au regard du sujet passionné, car ni Pyrrhus ni les autres ne se rendent compte qu'ils vivent dans ce trompe-l'œil, dans ce porte-à-faux. Certes, ce n'est pas de l'inconscient freudien, il n'y a aucune résistance de fait traumatique qui empêcherait le sujet de comprendre ce qu'il a au fond de lui-même. C'est simplement l'univers souterrain où s'exerçait Satan. C'est l'attirail de la fatalité et des puissances obscures des Grecs. C'est l'héritage de la religion chrétienne, de la tragédie antique et de la tragédie biblique, mêlé aux suggestions de la tragédie de Sénèque. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça précédemment, pour qu'on comprenne comment ça marche avec ce vieux modèle de la maladie d'amour, de fureur ou de dépit qui rongeait les viscères des héros noirs de la tragédie antique, de Médée, de Phèdre ou d'Édipe. Comment dans Andromaque, Racine à la fois utilise et détourne cette approche métaphysique du tragique pour y glisser une intuition beaucoup plus physique, une intuition psychologique? Une simple variante va le révéler, celle d'un fameux vers d'Hector. Vous savez que dans la première version, Oreste évoquant au lever du rideau sa passion pour Hermione, à quoi il soumet sa mission diplomatique, avouait à Pylade « Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne ». C'était la première version. En 1697, le mot « transport »,« Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne », laisse place à destin. Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Alors on a beaucoup glosé cette modification. Le premier terme, le transport au cerveau, c'était pathologique, c'était viscéral, si vous voulez. Ça se passe dans la tête. C'est la passion comme un transport au cerveau, comme une maladie qui rend fou. Le second terme, il est quasiment métaphysique. Il ne réfère pas aux religieux comme chez les Grecs, mais il évoque quand même une puissance supérieure qui précipite l'être humain malgré lui vers la catastrophe. Mais en réalité, les deux registres, les deux domaines sont partagés dans le rôle d'Oreste. Tout au long de son rôle, on va trouver les deux références. Il a sans cesse à la bouche son destin et sa mélancolie. Le sentiment diffus qu'il est malade d'amour, mais en même temps le sentiment diffus que c'est la faute des bons dieux. C'est la faute des dieux, c'est pas la sienne. Il est entre le viscéral et le métaphysique. On a cru qu'en changeant transport pour destin, Racine avait voulu donner une plus grande aura de tragique à son texte. En fait, rien ne dit que Racine assume le mot. C'est Oreste qui parle, c'est pas Racine. C'est Oreste qui croit qu'il a un destin. Mais qui vous dit que Racine croit qu'Oreste a un destin? Et dès lors, la réflexion a pu n'être due qu'au désir de mettre ce verre en résonance avec un autre, qui était, hélas, qui peut savoir le destin qui m'amène, et ça donnait ensuite, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Ça peut être ça. Mais je crois que l'intérêt de cette substitution, c'est de saisir le principe qui la justifie. Quel est le principe? Et là, j'en vais aborder la fin, si vous voulez, de la dernière idée, plus que quelques minutes. Le principe qui est là, c'est que le destin, c'est le nom que les amoureux donnent à la passion qui les entraîne en aveugle. Leur aveuglement porte sur la dénégation de leur responsabilité, qu'ils reportent d'eux-mêmes, ou sur l'être aimé, ou sur les dieux pervers, ou sur leur mauvaise étoile qui les a conduits à aimer. C'est toujours la faute des autres. Si Pyrrhus est amoureux, c'est la faute d'Andromaque. Si Orestes est amoureux, c'est la faute du destin. On a l'impression que leur aveuglement porte sur la dénégation de leur responsabilité. En quoi ? Ils n'ont pas non plus tout à fait tort. Pourquoi ? Parce qu'en accusant le destin d'avoir suscité en eux un amour dans lequel ils ne se reconnaissent pas, ou du moins dont ils souhaiteraient être dispensés, ils avouent et ils découvrent le caractère aliénant au sens propre de la passion. Aliénant, c'est-à-dire ce qui vous rend autre, ce qui est l'autre en vous. Le type qui se réveille amoureux se dit « mais ce n'est pas moi ». Et il est sincère. Il en veut après à l'humanité entière. Il en veut d'abord à la femme qui l'a rendu amoureux, et puis il en veut également au Dieu, ou à son étoile, ou à je ne sais qui. C'est un autre en lui qui le rend méconnaissable à ses propres yeux. Par quoi ? S'esquisse la définition du désir, non seulement comme un besoin, mais aussi comme une présence de l'autre en nous, une source d'aliénation et une source d'altération. Et vous savez que les deux mots français formés sur le latin qui veut dire autre, c'est alter et alienus, aliénation, altération. D'où ressort la loi fondamentale de la tragédie des passions élaborée par Racine, et je termine là, c'est que la passion constitue le destin fatal des personnages forgés par eux-mêmes, contre eux-mêmes, à leur insu. Je vous remercie pour votre patience. Si vous avez encore des questions à poser, je suis à vous.
Est-ce que vous ne trouvez pas que la présentation paroxystique aux limites de la capillotraction de la passion par Racine est contradictoire avec l'anatomie qui se veut objective de la passion chez l'homme, enfin, descriptive, scientifique limite?
Oui, l'anatomie scientifique, vous savez, c'est un problème au temps de Racine, parce que les sciences sont en pleine déshérence, elles ne savent plus où elles ne sont plus unifiées, elles sont un peu comme maintenant entre le modèle quantique et le modèle einsteinien. Alors, qu'est-ce qu'il a, Racine, pour comprendre l'homme? Il a, vous avez raison, une anatomie sclérosée, arrêtée, qui est posée, et qui est, je dirais, en forme de tiroir. Ça, c'est les passions tiroirs. Les passions tiroirs, vous savez, on a dû vous faire le coup, hein, on en prend une, et puis on regarde qu'elle se divise, parce que dans le tiroir, il y en a deux, et puis on voit qu'il y a deux tiroirs qui se conjoignent, et ainsi de suite. Ça, c'est la grille. Ce que Racine met là-dessus, c'est la poésie. J'appelle poésie la littérature qui pense, c'est-à-dire le concept qui danse. La poésie, qu'est-ce que c'est? C'est mettre du flou, de l'incertitude, du bizarre à l'intérieur de l'évidence. Si vous voulez, la grammaire des passions pour Racine, c'est de la géométrie euclidienne. Et puis un jour arrive Lobachevsky ou Riemann, c'est-à-dire quelque chose d'autre, qui est, vous avez raison, pas logique, des univers ronds, des parallèles qui se rencontrent dans l'espace, des choses comme ça. Et ce clinamen, ce truc en biais, c'est ça qui permet de saisir dans l'intuition quelque chose de plus profond. Si vous voulez, c'est la même chose que, si vous connaissez les dialogues de Platon, la différence entre le dialogue et le mythe. On dialogue, on fait de la rationalité, puis tout à coup, Socrate dit « on ne va pas aller plus loin, mais je vais vous raconter une belle histoire ». Et on passe dans le domaine de l'histoire. Alors vous allez me dire où est la rationalité anatomique et où est l'espèce de paroxysme bizarre? Ben, c'est le dialogue des deux qui aboutit au résultat. Vous voyez ? Il y a une grammaire des passions chez Racine, il y a un paroxysme poétique qui enlève ses passions dans l'ordre de l'horrible, dans l'ordre de l'intense, dans l'ordre de l'hyperbole, et en projection, en effet de perspective, vous avez quelque chose sur l'intuition de ce qui meut les hommes, voyez, et qui n'est ni dans l'anatomie de surface, ni non plus dans ce paroxysme exacerbé qui est un cas d'école, si vous voulez. C'est un cas d'école, une tragédie. C'est même presque une expérience de laboratoire. Mais ce qu'on y découvre, c'est l'humaine condition. Voyez, c'est comme ça que ça marche. Entre une grammaire des passions stable, un paroxysme poétique exacerbé, et l'intuition de quelque chose qui est derrière l'amour, il y a autre chose que derrière les autres passions. Cette autre chose fait communiquer l'âme et le corps. Nous, nous l'appelons le désir, lui, il ne sait pas l'appeler. Et ce quelque chose, c'est peut-être la clé de toutes les autres choses qui sont dans l'être humain. Vous voyez ? Mais c'est une intuition qu'il ne peut pas dire d'une façon rationnelle. Et vous qui êtes scientifique, vous devez comprendre ça. C'est le moment où la science commence à avoir des modèles qui ne sont pas de bon sens. Vous voyez, c'est le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Des choses comme ça, vous voyez, qui sont des bizarreries qui, lorsqu'on les raconte, sont des aberrations. Est-ce qu'il est possible qu'en microphysique, le futur précède le passé ? Ça fait curieux, quand je le traduis comme ça. Mais ce sont des intuitions qui permettent d'aller plus loin vers quelque chose qui serait le sens du monde, la boîte noire du réel. Racine cherche la boîte noire de l'être humain. Et c'est comme cela. Alors, le paradoxe de Podolsky et Rosen, c'est un paroxysme. Vous voyez ? C'est un paroxysme par rapport à une conception aristotélicienne du monde, ou même à une conception jusqu'à Einstein, quoi, ou jusqu'à Planck. Mais ce paroxysme, il aide à voir des choses qu'on ne voyait pas avec les systèmes carrés, les systèmes qui relevaient de la logique. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Vous voyez ? C'est un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ce que vous vouliez. Oui, un peu. Ça vous va ? Merci. Je vous explique une chose. J'ai souvent fait ce que vous avez pu penser être des glosses, c'est-à-dire m'en aller vers autre chose. C'est parce qu'une tragédie, c'est une œuvre d'art, une grande œuvre d'art, c'est un creuset. Et les influences, elles sont diverses, en temps, en genre, en forme. Et pour arriver à comprendre le système, il faut tourner tout autour, vous voyez. Et il faut remonter parfois très loin. Je pense que c'est par ces comparaisons qu'on peut aboutir à ça, qui est le moment où ça cristallise. Une œuvre d'art, c'est une grande œuvre d'art, c'est comme une expérience chimique, c'est le moment où ça cristallise, vous voyez, où tout à coup ça prend. Et on voit la tragédie de Racine, elle a pris. Moi, j'en connais beaucoup d'autres des tragédies du XVIIe siècle qui ont moins pris. Ça, c'est des morceaux, quoi. Là, ça a cristallisé parce qu'il y a eu quelque chose derrière, de l'ordre d'une intuition, à partir de ce vieux modèle des passions. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il le fait avancer ? Parce que c'est ça une des questions que vous avez certainement. Et comme vous avez un autre texte théorique qui est celui de Hume, et que Hume, lui, il aborde ça d'une façon rationnelle, l'intérêt, c'est de voir ce que l'approche littéraire, l'approche poétique en somme, permet de faire autrement que l'approche rationnelle, vous voyez, ou l'approche fictionnelle, parce que Balzac, lui, l'approche fictionnellement, c'est un autre genre. Et il faut que vous ayez, me semble-t-il, bien en tête ces modalités de l'imaginaire que sont le fictionnel, le rationnel et le poétique, et qui sont des manières de dire la même chose, à des époques, cela dit, différentes, mais tout de même. Et le rapport entre Racine et le roman, si j'ai parlé de ces choses, si je suis parti également de l'Iliade, vous savez que l'Iliade, c'est l'épopée, et l'épopée donnera le roman. Dans la classification, l'épopée aboutit au roman, elle n'aboutit pas à la tragédie. Il y a même bifurcation. Comment est-on passé d'une épopée à une tragédie ? Et comment le modèle épique qui vient de la mythologie, la bifurcation épique est repartie vers le tragique ? Ces jeux de labyrinthe à l'intérieur des modalités, c'est très comparable à ce que fait la science. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'accéder à la clé, en somme. Il y en a qui accèdent par la macrophysique et d'autres par la microphysique. Il y a des gens qui y accèdent uniquement par la mathématique intériorisée, par le modèle mathématique global, sans aucun rapport avec quelque réel que ce soit. Ce sont des modes d'approche différents de gens qui ont l'air de chercher quand même la même chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Et c'est ça le propre de ces choses, ce que Racine est le premier, peut-être l'un des premiers à concevoir. c'est qu'on ne cherche pas des choses qui existent déjà et qu'on découvre. Ah tiens, c'était là. On invente des choses qui n'existent pas avant. Si vous avez lu le Nouvel Esprit Scientifique de Bachelard, c'est ça. L'électron, ça n'existe pas avant qu'un jour quelqu'un dise « il doit y avoir une force qu'on appelle l'électron ». Alors on me dirait « ah oui, mais un jour on en découvre ». Est-ce qu'on les découvre ? Non, c'est une découpe du réel un peu différente. Mais il n'y a pas des choses à découvrir et puis on ouvre la boîte et on les découvre. Eh bien, la littérature, c'est la même chose. Racine n'est pas en train de « oh tiens, il a peut-être découvert un petit bout de l'inconscient de Freud ». C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il a construit un modèle opératoire qui permet d'aller loin, d'aller plus loin dans certains domaines que les autres n'y allaient avant lui, et de nous donner une intuition de quelque chose qu'on ne peut pas nommer, parce que moi, quand je vous appelle ça le désir ou l'inconscient, vous savez, c'est du baratin aussi. Hein. Ce que Freud a appelé l'unbewusst, c'est vraiment du négatif. Hein. C'est qu'il ne pouvait pas trouver un autre mot, sinon de dire, c'est un truc qui n'est pas conscient, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si c'est quelque part. C'est tout. Et ce n'est pas une découverte de quelque chose qui existerait déjà, c'est une intuition nouvelle pour comprendre l'homme. Et c'est ce que fait Racine aussi. Vous voyez. C'est comme ça que, je crois, on peut percevoir les choses. Et quand vous aurez une dissertation à faire, là je parle vraiment aux gens qui sont en concours, ce que le jury appréciera, ce n'est pas que vous récitiez tout ce que vous avez appris bien sagement sur ce que sont les patients, leur vie, comment ça fonctionne, c'est que vous ayez de temps en temps, vous donniez de temps en temps le sentiment que vous vous interrogez pour savoir comment fonctionne ce phénomène qu'on appelle le phénomène poétique, et comment, ou le phénomène anthropologique ici, et comment l'œuvre d'art peut y apporter une réponse à sa manière. Vous voyez. Je pense que c'est une question de problématique, la manière de problématiser les choses et de les poser. Ça, c'est pour répondre à une question qu'on ne m'a pas posée, mais qui aurait pu être posée. Alors maintenant, si vous avez encore des questions à poser, posez-les. Moi, j'aime toutes les questions, même les questions très simples.
Vous avez parlé à propos de l'égarement passionnel, de sens normatif. Vous avez distingué du sens descriptif. En quoi est-il normatif ?
Oui. En réalité, il y a un vilain mot que nous employons, nous, entre littéraires, qui est axiologique. Axiologique, ça veut dire que un concept, vous le prenez dans une grille de valeurs du mal au bien, voyez, sain au malade, et ainsi de suite, voyez. C'est une grille de valeurs. Et je dirais que les patients, elles peuvent avoir une simple situation, si vous voulez, elles sont un objet, un mot pour décrire des choses que l'on cadastre. Mais elles ont aussi, quand vous dites orgueil, quand vous dites jalousie, elles ont une valeur morale. Immédiatement, c'est négatif. Si vous dites à quelqu'un « calme-toi, tu es en colère », c'est pas seulement descriptif, c'est une manière de le reprocher. Parce que la colère, c'est une passion qui n'est pas bien. Vous comprenez ? C'est ça que j'appelle le sens normatif. Hein. Ça veut dire qu'il y a dans la passion, une dynamique de jugement. Et que les passions, elles se classent avec des jugements qui évoluent d'ailleurs. Parce que vous allez avoir des passions, comme par exemple l'orgueil, dont on peut estimer qu'il est capable de vous transcender, de vous permettre de faire un exploit, des choses comme ça. Mais les passions qui peuvent être positives ou négatives, c'est le problème de l'amour. L'amour, chez Racine, il n'est pas descriptif, il est totalement normatif. L'amour-passion, c'est toujours une horreur, et ça va vous mener au tombeau. Comme ça, c'est parti de ça. C'est très étonnant d'ailleurs. Si vous avez une dissertation où vous ayez à parler de Racine, il faut partir de cette idée. Pourquoi, chez Racine, la passion c'est toujours négatif et c'est toujours l'amour et l'amour c'est toujours négatif. Alors il y a des amours qui ne sont pas passionnels et qui sont bien, justement on ne les appelle pas des passions. On a besoin que le mot passion c'est quand ça dérive, c'est quand ça décline. Et le propre du théâtre de Racine c'est d'avoir induit en normatif ce qui, dans le langage courant, est en descriptif. Vous voyez, c'est d'avoir décalé les choses. Alors évidemment, c'est très intéressant par rapport à un texte comme celui de Hume, qui lui, emploie les mots en un sens complètement descriptif. Il essaie de décrire les passions comme ça fonctionne. Hume, c'est un médecin. Il décrit les choses comme elles sont. Il ne sait pas de dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est ainsi. Le poète, lui, il prend parti. Il y a une dimension de prise de parti, une sorte de violence dans la chose, de jugement. L'œuvre juge. La tragédie, c'est un genre qui juge.
À la fin de la pièce, il y a Pilate qui, dans les derniers vers, il y a Pilate qui se demande si Andromaque, elle cherche pas plutôt à venger sur eux elle, quand Andromaque attise les sujets de Pyrrhus contre les Grecs, il se demande si elle cherche pas à venger sur eux et Troie son premier époux. Est-ce qu'à partir de là, on peut proposer une autre lecture du personnage d'Andromaque plutôt que celle extrêmement positive que vous avez faite, et du coup en partant de la fin de la pièce et en la refaisant à l'envers, proposer une autre lecture du personnage d'Andromaque, ou est-ce que c'est juste, enfin, est-ce que cette phrase elle peut permettre de voir Andromaque différemment, ou est-ce que c'est juste peut-être la vie de Pilate parce qu'il est l'ami d'Orès et tout simplement.
C'est le grand problème de la tragédie, vous savez qu'effectivement les personnages ne sont que ce qu'ils disent et ce que les autres les voient, et nous construisons le personnage. Alors comment on construit un personnage de tragédie? On le construit à la rencontre entre ce qu'il est historiquement, d'abord, ensuite ce qu'il dit dans la pièce, et enfin ce que les autres disent de lui. Et à chaque fois, il faut faire une évaluation sur ce que le poète nous dit pour que nous y croyions, et ce qu'il nous dit avec l'intention que nous n'y croyons pas. Il y a des personnages qui disent des choses dont on sent qu'elles sont erronées. Et Racine s'arrange pour que nous le sachions. Lorsque Pilate dit cela, il n'y a pas tellement de raisons que Pilate soit négatif, soit trompeur, parce qu'il n'est pas envers une passion. Pilate, c'est un personnage un petit peu retiré de cette affaire. Il n'est pas, c'est un confident, donc c'est un personnage qui sent très bien comprendre les choses, et cependant plutôt une voix neutre. Hein, je dirais qu'il n'est pas engagé exactement dans les passions, même s'il est proche d'Oreste, il ne partage pas son aveuglement. Donc la position qu'il adopte, c'est une position un petit peu, je dirais, de bon sens, pas exactement au grand niveau où va se situer les héros et les héroïnes, parce qu'on est devant une hiérarchie, si vous voulez. Pilate, il est un peu second par rapport aux autres, il a la vie un peu des confidents, des nourrices, enfin des gens qui comprennent plus ou moins bien. Ce qu'il dit dans cette affaire, ça n'est pas une condamnation d'Andromaque, à mon avis. Racine n'avait aucune raison, si vous voulez, de mettre un doute sur le personnage d'Andromaque final. Il n'y a pas de raison de faire ça. Donc il faut le comprendre de l'intérieur. Est-ce que vous avez le vers exact? Parce que je ne l'ai pas ici. Et c'est intéressant pour comprendre le dénouement, notamment. Je ne me souviens plus exactement.
Et Andromaque elle-même, à Pyrrhus et Rebelle, qui ont tous les devoirs d'une commande pour le venge, et peut-être, surtout, veut venger toi encore et son premier
époux. Oui. Donc c'est l'idée qu'elle épouse la cause du mari mort, c'est-à-dire qu'elle emplit son rôle de reine, totalement. Donc je pense que ce qui nous est dit par la conclusion de la pièce, c'est, il faut connaître, vous savez, le destin des personnages, c'est une des règles. Alors là, on est dans un truc bien bizarre, c'est qu'une tragédie classique, ça fonctionne comme une machine, et il y a des lois. Et il faut que nous sachions les sentiments et le statut de tous les personnages principaux au moment où c'est fini. Il faut donc situer Andromaque. Et Racine a eu de la peine, vous avez vu qu'il a fait deux dénouements, on ne sait pas très bien, il y a eu deux versions de la chose, qui procède d'ailleurs de son caractère un petit peu étrange. Andromaque, elle lui a posé des problèmes, visiblement. C'est plus facile de décrire les choses. Et Andromaque est un personnage comme il y en aura peu dans son théâtre. Et je pense que, à ce moment-là, ce qu'il a voulu montrer, c'est que Andromaque entre dans la continuité de sa vie en reprenant un mari. C'est-à-dire qu'Andromaque est le modèle de la veuve absolue, et elle reprend la cause de Pyrrhus, la cause de son pays, elle adhère à cette affaire et elle rentre en quelque sorte dans l'histoire et dans la réalité. Donc il y a une continuation de vie pour Andromaque alors qu'il y avait une rupture pour les trois autres. Je pense que c'est à peu près la seule chose qu'il veut dire, et le dénouement lui a posé des problèmes. C'est pas une tragédie de la fin, c'est une tragédie du début. Andromaque, c'est une tragédie peut-être pas d'amateur, il en avait écrit deux avant, mais c'est une tragédie commençante, et je pense que c'était difficile de faire finir le personnage d'Andromaque. Vous savez que quand un poète tragique finit, il a besoin de savoir où il va laisser le personnage. Alors quand il est mort, c'est pratique. Quand il est fou, c'est complexe, parce qu'Oreste, il a un destin après, donc on le maintient dans un interstice. Pour Andromaque, il fallait la situer. Alors on va la situer comme endossant les habits royaux et devenant la reine veuve substituée à Pyrrhus. Alors pourquoi ? Il y a des raisons bêtement anecdotiques. Vous savez que cette tragédie a été patronnée par la belle-sœur de Louis XIV, qui s'appelait Henriette d'Angleterre, et qui était la fille de Charles Ier, le roi d'Angleterre qu'on avait coupé en deux. Et la princesse d'Angleterre, la femme de Charles Ier, que Cromwell avait décapité, est venue en France, elle s'appelait Henriette de France, et elle a élevé ses deux enfants, elle a élevé notamment Henriette d'Angleterre, et elle a réussi à ramener son fils, c'est Charles II, sur le trône de son père après le départ de Cromwell. Il y a donc l'idée de rendre hommage à une grande dame qui s'est trouvée investie d'un pouvoir après la mort de son mari. Et sans que la tragédie soit véritablement une tragédie à clé, on peut dire qu'il y a une image, si vous voulez, de ce personnage qui peut expliquer l'attitude de veuve guerrière qu'au départ, Racine avait donnée à Andromaque. Et il a, dans la suite, lorsqu'il a corrigé la tragédie, lorsqu'Henriette d'Angleterre était morte, qui avait plus ses raisons anecdotiques, il a mis de la distance à l'égard de ça. Et il a présenté une Andromaque beaucoup moins politique et militaire, et plutôt rendant hommage aux mânes de Pyrrhus. Vous voyez donc qu'il y a là peut-être une simple raison anecdotique dans cette affaire, vous voyez, et une manière de traiter la chose en termes historiques. Alors ça, c'est tout le problème de la contingence des œuvres littéraires, vous voyez, et qui peut expliquer que dans la fin, il y a peut-être un léger trouble. Mais de là à remonter, à partir de ce vers sur le reste du rôle, je ne pense pas. Vous voyez. Je ne pense pas que c'est suffisant dans la logique de cette affaire pour faire remonter les choses.
Vous aviez soulevé avec la grammaire des passions définie par les humeurs la structure quadripartite de Andromaque.
Oui.
Et donc par conséquent de la dialectique du corps-machine qui préside à la tragédie. Et j'ai eu l'impression que c'était dans le retournement de justement de ces humeurs qui peuvent évoquer une sorte de manichéisme quand même, mais dans lequel on ne sombre pas parce qu'il y a justement ce retournement qu'on va voir dans le tempérament sanguin de Pyrrhus qui va finalement le conduire à l'inquiétude, dans la jalousie d'Hermione qui va finalement elle la conduire à sa propre perte, et dans le cas de
d'Oreste, c'est la mélancolie.
C'est la mélancolie qui convient à la folie.
Mmh, oui.
Et Andromaque semble rester quand même assez constant dans son flingue, avec comme ça une espèce de basse continue sur laquelle vient de se heurter la haine des autres. Et comme ça, est-ce qu'il n'échapperait pas à cette espèce de machine qui est la machine du corps mais qui est aussi la machine tragique ?
Pas vraiment, parce que le flegme, il a pour principe de ne pas évoluer. C'est-à-dire que la bile d'Hermione, elle a des hauts et des bas. Le sang de Pyrrhus le rend plein d'atermoiements, et la mélancolie d'Oreste, qui est affirmée et affichée, c'est le tempérament des hauts et des bas. Donc les trois personnages sont voués par leur tempérament de base à ces atermoiements et à ces modifications. Il se trouve que la flegmatique, puisque c'est la définition du tempérament d'Andromaque, par définition elle ne bouge pas. Donc elle est dans une structure physique qui ne porte pas atteinte à sa structure mentale, sauf si le flegme la rend apathique. Ce n'est pas le cas, parce qu'elle a de la tenue par sa naissance, etc. Donc, elle a la chance d'être vouée à celle des humeurs qui, justement, n'est pas agissante. Vous comprenez ? C'est l'humeur creuse, négative. C'est un peu le neutre. Elle est dans le neutre, alors que les autres sont dans l'excès. Alors, vous avez raison, les autres sont dans les excès contradictoires. C'est-à-dire qu'ils passent de l'un à l'autre. Elle, comme elle est au milieu, comme elle est dans une espèce d'intermédiaire, elle ne bouge pas. Et par là, elle représente, grâce à son tempérament, ce qui était le modèle de la vérité et de la sagesse passionnelle. Vous savez que le modèle des passions, il est non pas dialectique, mais enfin, il n'est pas alternatif. L'idée d'Aristote, dans, je ne sais pas si vous connaissez ça, dans l'éthique à Nicomaque, c'est de dire qu'il n'y a pas des passions bonnes et des passions mauvaises, il y a des passions centrales entre des extrêmes. Par exemple, si vous défendez une ville, et puis que des ennemis arrivent très nombreux, vous êtes à la porte de la ville. Si vous êtes téméraire, vous vous précipitez à l'assaut des ennemis, ils vous tuent parce qu'ils sont plus nombreux que vous, les portes sont ouvertes, ils pénètrent dans la ville, c'est pas bon. Si vous êtes pusillanime, c'est-à-dire craintif et timoré, vous courez pour sauver votre vie, vous laissez les portes ouvertes. C'est pas bon non plus. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une résultante entre la pusillanimité et la témérité qui s'appelle le courage. Et le courage, ça consiste à bien fermer les portes et à aller chercher des renforts. C'est cela, la résultante, si vous voulez, et qui fait qu'on est en résultante entre des passions extrêmes. C'est le moyen terme, le mésotès. C'est ce qu'incarne Andromaque. C'est-à-dire qu'Andromaque, elle pourrait être totalement funèbre, et dans ce cas-là, elle serait dans l'inaction funèbre. Mais elle a des passions, parce qu'elle a quand même un fils à défendre, elle a peur, elle a mal, elle est outrée et indignée. Mais elle n'est quand même pas dans l'extrême de ces passions-là, parce que comme elle a de toute façon un pied dans la tombe, ça l'équilibre. Et comme elle est dans la résultante entre les deux, sa résultante, c'est finalement que la passion qu'elle éprouve lui permet de se dégager des passions. Voilà en quoi son flegme correspond à une attitude psychologique qui est à la fois cohérente et équilibrée. Et c'est là sa force. Alors, ça fait que dans la quadripartition, elle a la place à part, qui est celle soit de l'apathie totale, soit du type dégagé des passions. En cela, elle est dans la quadripartition, mais elle n'y est pas. Elle est un peu et pas. C'est toute la beauté de ce système, un peu ambigu évidemment, et qui est un système, comprenez-le bien, qui est une grille parmi d'autres. C'est une grille que Racine a pu utiliser parce qu'on construisait à partir de ça, mais vous savez, un peu comme on utilise du papier millimétré, puis après la courbe oublie. Il y a là quelque chose qui est une grille de départ, mais qui va jouer avec beaucoup d'autres pour arriver à donner l'épaisseur et le relief du vraisemblable. Ce n'est qu'une parmi d'autres. C'est comme ça que j'analyserai cette répartition. Si vous voulez, le flegme d'Andromaque lui permet d'être dégagé. Et c'est cette force du dégagement.
Et est-ce que Asséna, justement, qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, il peut être vu comme Chryséis, justement, dans l'Iliade, celui qui grâce à lequel tout commence, justement.
Oui.
Une sorte de personnage tampon qui permet le flegme d'Andromaque et qui permet la passion des autres de surgir.
Je ne comprends pas. Le rôle de Chryséis, c'est-à-dire...
Celui qui fait... commence tout, justement.
Oui.
C'est par le rat de Chryséis, de l'esclave d'Agamemnon.
Oui, je comprends, oui.
Que ça a commencé. Est-ce que c'est grâce à Astyanax que Andromaque conserve son flegme? C'est-à-dire que sans Astyanax, seulement avec le souvenir d'Hector, ça n'aurait pas suffi.
Alors... c'est le même phénomène du moyen terme, ce qu'ils appelaient le mésotès. Elle a un pied dans la tombe parce que tout ce qu'elle aimait est mort, donc normalement, elle devrait se suicider. Elle en a le droit d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas chrétienne, donc elle peut. En même temps, comme elle a un fils qui est un gage de ce passé, l'attachement à ce passé l'oblige à avoir un avenir. Mais comme elle ne peut pas vivre dans l'avenir, puisque tout ce qu'elle aimait est morte, et que ce fils ne pourra pas devenir le successeur de son père, elle est dans le présent, qui est le résultat de la dialectique entre le passé et l'avenir. Et son présence, cette présence d'Andromaque, parce qu'elle est présente, c'est même étonnamment curieux. Les autres, ils ne sont jamais là. Ils sont tantôt dans le passé, tantôt dans l'avenir, ils ne pensent pas où ils sont. Ils ont une temporalité incertaine. Elle est dans le présent. Et dans ce présent, qui est la résultante de ce passé où elle produit son avenir, elle réussit à s'exempter de l'horreur des passions. C'est l'une des très rares tragédies où Racine a réussi à mettre en héroïne quelqu'un qui n'est pas dans le temps, quelqu'un qui n'est pas dans le vertige des passions. Elle est dégagée. Et c'est cette position de dégagement qui lui donne à la fois sa force, sa lucidité et sa capacité d'action. Et le paradoxe, parce que c'est une pièce à paradoxe, hein, le paradoxe d'Andromaque, c'est cela, c'est que son action est pure de tout ce qui peut la détruire, c'est-à-dire des passions, qui est le contraire de l'action, parce que c'est une action qui est dégagée du réel. Si vous voulez, je pense que c'est la plus belle transposition que l'on ait trouvée dans un monde où il n'y a plus des dieux qui sont dans l'Empire, Deus Ex Machina et tout ça, la plus belle expression qu'on ait trouvée d'une hiérarchie des plans qui n'est pas une hiérarchie horizontale mais verticale. Andromaque est au-dessus. D'ailleurs, ses caractéristiques, elle n'est pas de leur génération. Elle est de la génération d'Hector et d'Achille. Alors, Achille, c'est le père de Pyrrhus. Ménélas, c'est le père d'Hermione. Donc, elle n'est pas de la même génération. C'est extrêmement curieux. Et en plus, elle est attachée à un mort et à un gosse. C'est très rare dans les tragédies devant des enfants. C'est une chose bizarre. Et cet enfant, il appartient à un monde qui est détruit. Dans la légende, normalement, c'était un fils qu'elle avait eu de Pyrrhus. Mais ce n'est pas le cas. Racine a changé. Il le dit, il explique. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit un enfant mort. C'est-à-dire un enfant qui vient de Troie, ravagée et détruite. Elle est donc à la fois dans le passé et dans l'avenir. Puisque son avenir n'est qu'un gage d'un passé perdu. Et elle ne peut pas être dans le passé puisqu'il n'existe plus. Elle est donc dans le non-lieu. Et c'est de ce non-lieu qu'elle surplombe. Et c'est pour ça qu'elle agit les autres comme s'ils étaient des marionnettes, parce qu'eux sont les objets des passions. Et ce qu'il y a de foudroyant quand même dans la tragédie de Racine, c'est que l'action ne peut provenir que d'un personnage qui n'est pas dans le réel. Ce qui prouve quand même le caractère très pessimiste de la tragédie racinienne sur la possibilité de l'action humaine. Puisque c'est parce qu'Andromaque est morte, en gros, qu'elle peut agir. Ah, vous me direz, elle est rattachée à la vie par un fils, oui, mais enfin ce fils, c'est une reliquiae, c'est un reste. Nous sommes donc dans une position vraiment extraordinaire. Andromaque, c'est une immense tragédie sur le temps. C'est une méditation sur le temps, c'est ce qu'il y a de plus profond peut-être, le temps, cette affaire. Bon, et c'est ce qui fait l'étrangeté de la chose, c'est qu'ils ne sont pas dans le même temps. Pour des scientifiques, s'il en reste encore dans la salle, je ne sais pas si vous l'êtes, c'est passionnant, parce que ce sont deux temporalités. C'est stupéfiant, quand même. On a l'impression qu'elle ne vit pas dans le même temps que les autres. Elle est dans une autre dimension. Et puis, de temps en temps, ça frotte. Alors, vous avez des... Ça fait un peu comme l'homme de Cordoue, ce que je dis là. Mais enfin, bon, si vous voyez ce que j'évoque. Il y a comme des frottements de temporalité. Et c'est à ce moment-là que se trouve la chose. Le colloque de Cordoue, c'était une chose dans les années 80, où des scientifiques et des mystiques s'étaient réunis à Cordoue pour essayer de poser les problèmes, ben, par exemple, du paradoxe EPR, des choses comme ça, oui, des problèmes qui sont des problèmes qui excèdent la rationalité en mathématiques et en physique, et qui posent le problème de savoir si, ben, si, par exemple, un type tourne très vite autour d'une colonne Maurice, il finit un jour par buter dans son image. Il paraît qu'il faut tourner très très vite pour buter dans son image. Enfin, ça pose un problème intellectuel, quoi, vous voyez. Et donc, c'était ça. C'est vraiment la pensée fondamentale. Et il y a dans Andromaque quelque chose de cet ordre, d'une profondeur qui est vraiment stupéfiante. C'est comment ce personnage qui n'est pas du même temps agit dans leur temporalité, comment elle est le prétexte de l'action, finalement. Et comment, à la fin, c'est elle qui garde la vie. Ça aussi, c'est un paradoxe. Le dénouement d'Andromaque est un immense paradoxe. Comment se fait-il que la vie demeure dans celle qui est déjà morte? De ce point de vue, jamais il y aura eu peut-être de tragédie aussi pessimiste de la part de Racine, puisque ce qu'il a l'air de nous dire, c'est qu'une fois que l'action a eu lieu, la seule qui reste vivante et lucide, au reste il n'est pas mort mais il est fou, c'est celle qui était déjà morte. Oui, c'est vraiment la jonchée de cadavres, quoi. Sauf que chez Shakespeare, tout le monde meurt, ils sont tous dans le sang, flaque de sang. Chez Andromaque, on le voit à peine, mais dans Andromaque, je veux dire. Mais le bilan est un bilan terrifiant, quoi. De ce point de vue, pour ceux d'entre vous qui travaillent ça avec... c'est la cousine bête, hein, c'est ça. Le pessimisme est construit différemment, mais il est égal. Il y a là une interrogation à poser sur, justement, le pessimisme de ces œuvres. Je ne vais peut-être pas...
Donc on va s'arrêter là, on va vous remercier encore une dernière fois. Et...